I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, on vient de terminer d'enregistrer cet énorme épisode avec Simon, 1h30. On s'est éclaté, on a parlé d'un milliard de sujets différents. Ouais, je sais pas, t'as quoi comme ressenti après cette discussion, mec?
Bah, c'était vraiment bien.
Ouais.
Là, je trouve plus trop mes mots parce qu'on a parlé pendant 1h30 non-stop.
Mais c'était bien. On avait un bon flow en tout cas, mec. Ouais. C'est trop stylé parce qu'on connectait facilement des idées, on faisait tac, on était capable de revenir sur les sujets.
Rien n'était sourcé, tout allait très vite.
Ouais, on a fait beaucoup de bro-sciences, on a parlé d'épigénétique, de genre, d'orientation sexuelle, ouais, de rap, ouais, de différentes cultures, de violence, d'expression via la violence, via c'est les vrai sports de combat.
On a ouvert plein de portes.
Frère, on a parlé d'un milliard de trucs. En réalité, c'est un sujet, un podcast très large, mais ça va être très drôle, à mon avis, à écouter.
Ouais, j'en doute pas.
Il y avait plein d'humour, en tout cas. Donc, merci encore d'être venu, mec. Ah. Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode.
Mec, t'es le premier français que j'entends dire ça.
Non, mais il faut accepter. Bah oui. Mais ils disent ça parce que, tu sais, ils veulent sauver leur enfance.
Ouais, je pense que c'est ça.
En disant machin, mais il faut. Tu réfléchis deux secondes au truc. Les enfants, ils arrivent pas à apprendre à compter en France.
C'est vrai?
Bah, c'est 70, galère. C'est bizarre.
Mais vous savez, comme ça, 70. Quand vous êtes petit, vous galérez un peu à dire 70?
J'ai vu un exemple il y a pas longtemps qui galère.
C'est vrai.
Moi, évidemment, non,
c'est trop triste pour les enfants, hein, mec.
Ouais. Si, après, ils ont des retards et tout.
Ouais, j'avoue.
Ils en veulent aussi.
Ça se répercute sur le sur système le social et sur le.
Non, mais oui.
Mec, Simon, du coup, bienvenue.
Merci.
Très content de t'avoir ici. Alors, je sais pas, comment on pose un contexte là sur cette discussion. Je commence et tu me corriges, tu rajoutes, tu complètes.
Ouais, je t'en prie.
Ok, moi je te connais parce que je sais plus comment j'étais tombé sur tes vidéos YouTube, mais bref, j'étais tombé dessus, j'avais kiffé. Et ensuite, j'ai connu un peu ton groupe de potes, donc Florent Tavernier et Missor.
Absolument.
Et d'ailleurs, l'atelier Missor, c'est un projet auquel tu as participé.
Ouais, complètement, je suis dedans.
On
travaille ensemble dans l'atelier Missor.
Ok, en gros, vous faites des sculptures de crânes et vous m'aviez envoyé un crâne.
Absolument.
Enfin, des bustes, pardon.
Ouais, c'était ça à ce moment-là en tout cas.
Et j'avais reçu un buste, un super buste d'ailleurs. J'étais étonné de voir à quel point ils étaient lourds. C'est le matériau, c'est quoi?
C'est du plâtre.
C'est du plâtre.
Ouais, c'est de reproduction en plâtre. En tout cas, à ce moment-là, on était juste sur le plâtre.
Ok.
Là, il commençait à avoir du bronze, on touche un peu des trucs à 1000 degrés.
Ouais. Vous avez déjà commencé à faire le bronze?
On commence à faire le bronze. Très laborieux.
Putain, ça va être stylé. Hein.
Ça va être très très stylé.
Et du coup, sur ta chaîne YouTube, tu traites de plein de sujets qui vont. Tu vas en profondeur en fait sur plein de sujets différents. J'ai l'impression que tu te mets pas vraiment de limites. T'as des sujets qui te plaisent. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, c'est que je suis assez libre là-dessus. Ouais.
Et quand on est rentré en contact sur, je sais plus exactement comment est-ce qu'on est rentré en contact, mais au bout d'un moment, tu m'as dit que tu venais à Barcelone.
Sur Instagram.
Tu m'as dit que tu venais à Barça.
C'est ça.
Et j'ai fait vas-y, on se capte, tu vois.
Quel plaisir.
Et puis on s'est capté il y a 2 heures, première fois qu'on se voit de la vie. Et puis très content, on a pu discuter. Enfin, on n'a pas arrêté de parler depuis qu'on s'est vu. Et puis on s'est dit, ouais, faudrait déjà commencer un podcast maintenant et tout. Et puis au final, bon, on est venu chez moi. Et puis voilà, mec, bienvenue.
Pas mal pour le contexte.
C'est un bon contexte,
bien, ouais. C'est plutôt structuré quand même.
Merci, mec. J'essaie de m'améliorer sur ce point. Donc pour ceux qui connaissent pas Simon, attendez-vous à une conversation qui va partir dans absolument tous les sens. Ouais. Ça va être de la philo, de la psycho, du dev perso.
Absolument de tout. C'est terrible.
Et c'est ça qui est cool.
Ouais.
Je pense que vous allez avoir des cerveaux qui vont taper des crises d'épilepsie. Il y a des chances. Est-ce que par quoi on commence? On est en train de parler des drogues, du coup, juste avant
on parlait des drogues, ouais.
Ouais. Enfin, juste avant on parle
de psychologie, de plutôt des excitants et puis des calmants, quoi.
Exact. Ouais, différentes catégories de drogues. Parce que tu me disais, moi je te disais en fait que j'avais testé la coke l'année passée et que voilà, au cas où. et que ça n'avait pas vraiment plu et que j'avais pendant longtemps. Ah mais c'était ça en fait. On n'avait pas terminé. J'étais pas allé au bout du truc. Je disais j'avais testé la coke et pendant longtemps j'avais pas testé la coke justement parce que j'avais peur que de par mon tempérament qui est quelqu'un
qui aime bien généralement avoir l'esprit stimulé, tu vois. J'ai par exemple le café, c'est une drogue que j'adore, la caféine c'est une drogue que j'adore, et l'alcool c'est pas tellement quelque chose qui me plaît, tu vois. Et le, bah, du coup l'alcool c'est un dépresseur qui ralentit l'activité du système nerveux, la caféine c'est un stimulant, et je me suis dit mec, j'arrive pas à me détacher du café les matins, j'ai peur que si je commence la coke ça me fasse exactement le même effet, et puis que je commence en fait à reprendre régulièrement. Et en fait quand j'ai pris de la coke, ça m'a calmé en fait, ça m'a pas fait un effet que j'aimais. Et du coup on parlait de ça et tu disais les différentes catégories de drogue en fonction des différents profils psychologiques.
Oui, oui, c'est ça. Mais c'est assez étonnant en fait que ça t'ait calmé. Parce que pour moi, enfin pour le coup, moi j'ai pas testé, hein, mais j'imaginais ça comme la suite de la caféine en gros.
Caféine plus vénère.
C'est ça.
Je le voyais
comme
ça.
Il y a des gros pré-workouts, des trucs qui respectent pas les normes, tout ça. Puis, y a... puis tu trouves ça, tu vois.
Ouais, ça peut être caféine, genre pré-workout. Comment il s'appelait ce pré-workout
le... Avec un.
Hulk. C'est Hulk ? Non.
C'est le Jack...
Ouais, Jack 3D, mec.
Jack 3D.
Exact, mec. Mais j'ai jamais goûté, tu vois, mais j'ai
entendu... Non, non plus, mais ça a l'air tellement bien.
Ouais.
En fait, quand on aime le café, il y a un problème, c'est qu'on voit ça et on se dit, ah ouais, en fait, c'est...
Ouais,
c'est le café en bien mieux.
C'est le café puissance 100, mec.
Ouais, c'est...
Bah
faut pas passer la commande, faut pas.
Du coup, bah bref. Bah du coup, bah en plus, c'est... Tu trouves ça aux États-Unis ?
C'est une bonne... Peut-être même pas.
Peut-être même plus. Hein.
Si, aux États-Unis, je crois qu'ils sont quand même plus relax.
Ouais.
À mon avis, États-Unis, pays de l'Est, tu sais, les deux empires, ça, ouais. ça doit y aller.
Bah, il faut, la compétition, elle est rude.
Bah, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est à la traîne.
Ouais, j'avoue. Putain, faut vraiment qu'on
bah,
se...
Il faut...
Qu'on se libéralise un petit peu à ce niveau-là.
C'est ça, c'est
comment ça,
ça
vendre de la... Mettez un peu de coke, là, dans les pré-workout, my protein,
c'est
là.
Ça, c'est ça.
On a aucune chance, mec. Les youtubeurs francophones, c'est pour ça qu'on est à la traîne, mec. Parce qu'on n'a pas des bons sponsors.
Qu'on n'est pas chargé.
MyProt, les gars, faut commencer à y aller. On disait aussi... Attends, on parlait...
Mais non, du coup, je trouve ça très étonnant.
Ouais, je voulais...
Parce que...
Je voulais faire une petite prévention, en fait, par rapport à la cocaïne.
Bien sûr.
Genre, prenez pas de drogue. Voilà, c'est bon.
c'est
non, c'est pas vraiment ça. C'est juste, faites attention au contexte, en fait, dans lequel vous allez la prendre. C'est-à-dire, si vous voulez... Putain, ça fait vraiment deux podcasts de suite où je parle de drogue, parce que le dernier épisode, c'était sur les champignons. Mais
ouais, c'est vrai.
Le contexte dans lequel tu vas prendre une drogue, c'est très important, en fait, parce que tu crées des associations entre un comportement et des lieux ou des personnes. Donc, si tu vas tester la coke avec... C'était la mec qui a l'habitude de faire des soirées avec un groupe de potes et que tu vas tester la coke dans ce même genre de soirée avec ce même groupe de potes, tu vas associer la coke à ce contexte-là et quand tu vas te retrouver dans le même contexte, eh ben, tu vas avoir ton petit circuit dopaminergique qui va te faire « vas-y, tu pourrais prendre de la coke, c'est stylé ». Alors que si tu prends de la coke, et moi c'est ce que j'ai fait la première fois, avec une personne que tu ne penses ne jamais revoir et dans un lieu, un contexte que tu ne penses ne se reproduira jamais...
T'auras pas les rappels.
T'auras pas le trigger. Mais voilà, du coup, faites très attention à la manière dont vous testez certaines drogues. Et ne testez
pas. Prenez pas.
Ouais, n'en prenez pas. Mais je sais pas, je pense que le message il peut être un peu plus nuancé parce que.
Ouais.
Toutes les théories sur l'addiction, elles sont. Dis-moi.
Oui, c'est vrai. À mon avis, il n'y a pas tant d'addiction d'ailleurs sur la cocaïne, par exemple, c'est ce que j'avais entendu. Mais après, ouais, moi je serais plus nuancé justement sur LSD et champignons, de ce que j'ai vu en tout cas, et des gens que j'ai vu en prendre, que cocaïne.
D'accord.
Pour le coup, cocaïne, j'ai plus vu d'effets néfastes sur le, justement, pas forcément l'addiction, mais sur le comportement des gens,
d'accord, ouais.
Plutôt que même champignon. En fait, il y a des mecs qui restent bloqués, c'est pas bien. Ils deviennent mous, ils deviennent relativistes, c'est atroce.
Mais après, j'ai l'impression que les mecs qui vont prendre des champignons, c'est aussi des mecs qui fument de la beuh ou qui prennent d'autres drogues à côté, tu vois. Quelque part, c'est pas comme si la beuh entraînait la consommation de champignons.
Ouais.
Mais quand t'as un mec ouvert qui va tester des trucs, bah un peu naturellement, tu commences par fumer des clopes ou prendre de la beuh,
ouais.
Et ensuite tu vas un peu dériver sur.
Mais il y avait une catégorie de personnes, tu sais, entre la Silicon Valley, Jordan Peterson,
ouais.
Où on se dit, c'est peut-être pas les champignons d'ailleurs, c'est quoi, c'est la consommation d'LSD à laquelle
ils font référence. Non, ils font ça, ils font
champignons. Et en fait, c'est quand tu vois un mec sérieux qui fait ça, tu dis oui, ça va. Tu vois, c'est ça qui m'a fait un peu me détendre là-dessus.
Ouais.
Sans s'en prendre pour autant, tu vois, c'est juste au niveau de ma. J'ai plutôt une mauvaise. Appréciation des drogues,
ouais.
Tu vois, je trouve pas c'est une très bonne chose.
D'accord.
Mais celle-là.
Je pense que au niveau des drogues, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est très culturel. Parce qu'au final, genre la caféine ou l'alcool, c'est des drogues au même titre que la cocaïne ou autre.
Parce que ça modifie l'état de conscience, mais à un niveau. Je pense qu'on y est plus habitué déjà.
Bah moi, je vais dire un truc. Moi, c'est ce que je dis à tous les gens qui me demandent ce que j'ai pensé de la coke. Moi, j'ai plus d'effet, un effet plus vénère sur mon système avec du café. Genre le café, ça m'excite plus que la cocaïne.
C'est très
que je te dis, la coke, ça me relaxe, mec. J'ai pris ça, j'ai eu l'impression qu'il y a... Et c'est pas que c'est de la mauvaise coke, parce que j'ai testé genre à 3-4 reprises, si tu veux.
Je me suis pas fait baiser, moi, attention.
Pensez pas que je suis... je sais choisir ma cocaïne.
Il a tapé du plâtre et tout, il attend. Je saigne un peu du nez.
C'est marrant, mec, maintenant que tu dis ça, parce que j'ai... pas, je vais pas dire que j'ai eu le sentiment que ça avait le goût de plâtre. Enfin, tu sens pas vraiment le goût par le nez.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu un goût de plâtre, mec. Peut-être c'était du plâtre,
c'était
mec.
Juste ça.
Putain, mec. Je vais essayer de gratter le petit bus de Peterson que vous m'avez envoyé et de sniffer un petit bout de Peterson. Et si ça a le même goût, ben, je saurais que c'était du plâtre, mec.
J'ai des souvenirs traumatisants comme ça.
De quoi? T'as souvenir plâtre?
Hein? Ah non, 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 moi j'ai jamais pris ça, mais tu sais, il y a des endroits sombres à Paris. C'est pas forcément ce qu'on imagine, mais Pigalle, c'est un enfer. Je parle même pas du côté prostitution et tout, d'accord. Je parle de toute la misère sociale qui entoure.
Okay.
Et ouais, j'étais tombé sur un mec qui il avait une espèce de canette de 8-6. C'est pour que t'aies un peu la sociologie.
C'est 8-6, c'est quoi?
C'est les canettes, vraiment les trucs pour te faire oublier ta vie, quoi.
D'accord, c'est
les...
bière très alcoolisée.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Okay.
Et il était en train de gratter un mur en récupérant dans un sachet ce qu'il récupérait sur le mur, quoi.
Sure.
Qui était en fait du plâtre. Enfin, pas du plâtre, mais tu sais, la pierre un peu friable qui a apparu.
Ouais, ouais, ouais.
Et non, mais du coup, j'avais pourquoi la projection, tu vois. Parce qu'il allait le vendre juste après. Parce qu'en fait, c'est un lieu de passage où les dealers n'ont pas un lien de confiance très fort avec leurs clients, et du coup, il allait la vendre juste après. Mais du coup, ouais, j'imaginais le mec qui allait sniffer un peu de mur parisien, quoi.
Frère, j'ai pas compris.
C'est vrai?
Genre, c'est un lieu de passage où les dealers, du coup, c'est-à-dire quoi? Les dealers, ils collent la drogue contre le mur et les clients,
non,
ils viennent la gratter?
Non, Pigalle est un lieu de passage.
Ça veut dire quoi?
Où, bah, c'est que les gens viennent faire la fête ici.
Ok, d'accord.
Et que, c'est pas un dealer qui va avoir qui a besoin d'un lien de confiance
d'accord,
très fort,
donc
avec ses clients.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est parce que tu parlais de la coke qui avait potentiellement un goût de plâtre, et je me suis dit, parce qu'en voyant ça, tu sais, j'ai imaginé le mec qui allait avoir du plâtre plein le pif. Et
d'accord.
Tout,
donc faut pas mettre ça dedans. Tu pars autant en couille que moi, en fait. On est vraiment dans la merde pour ce podcast. C'est vrai. C'est comment ton enfance?
Genre, ça a été, mec.
Parce que putain, si c'était pire que moi, mec. À l'école, tu faisais un peu des bêtises ou genre t'étais comment?
Un petit peu, ouais.
Parce que t'as l'air un peu plus apaisé quand même, j'ai l'impression. Enfin,
oui. Après, je me suis beaucoup apaisé. Après, j'ai dit, il faut arrêter et tout ça. Mais non, ouais, à l'école. Et puis surtout, partir dans tous les sens. Pas forcément très très expressif. Souvent, c'était dans ma tête.
Okay.
C'était juste, comment on dit, dissiper, les enfants dissipés.
Ouais.
Et tout ce qui est... Jamais eu de bilan psy ou quoi, hein, peut-être la dyslexie, ce genre de choses, quoi.
Ouais.
Mais je crois que tout le monde a ça aujourd'hui. Enfin, tout le monde, il y a un enfant sur trois, quoi, en tout cas.
Ouais,
ça.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mec, tu tombes sur un psy qui veut te faire un diagnostic, qui va te faire un... En fait, juste la décision du mec, ça va avoir un impact énorme sur... Tu vois, un mec qui te diagnostique comme tel, tu vois, toi, tu te colles cette étiquette sur toi,
ouais.
Et ce qui est taré, c'est qu'ensuite, tu vas... Juste pour pas péter un plomb, tu vois, vu que t'as envie de... T'as envie d'avoir en fait une concordance entre tes actions et l'image que t'as de toi-même. Bah quand on te colle une étiquette, on te dit par exemple, bah je sais pas, t'as une dépression. Du coup, tes actions, sans même t'en rendre compte, tu vas les aligner sur cette image que t'as de toi-même. De coup, tu vas agir comme une personne qui a une dépression. Et en fait, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que quand on va te demander en fait quel type de personne tu es,
je suis d'abord dépressif.
Bah voilà, parce que toi, quand on te demande, les mecs, ça c'est, en fait, ça c'est genre le gros truc mindfuck, tu vois, genre je t'avais parlé un peu de ce programme de coaching que je suis en train de suivre avec des mecs, où la première étape, en fait, c'est de leur demander la vision, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. On essaye de travailler sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et en fait, je leur explique que, et ça c'est un truc qui est juste incroyable, c'est, et du coup, on peut en parler ensuite parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi.
Ouais, carrément.
Mais en gros, l'image que t'as toi-même, quand je te demande, est-ce que t'es un mec qui arrive souvent, est-ce que t'es un mec ponctuel? Comment tu fais pour répondre à cette question? Est-ce que t'as comme
bah,
ça
tu te rappelles à... Ouais. Ah là moi, oui. Je sais exactement dans quelle situation je suis à ce niveau-là.
Mais du coup, ce que tu fais, c'est que tu regardes dans ton passé,
ouais.
Et tu vois plusieurs situations dans lesquelles t'aurais pu ou non être ponctuel,
ouais.
Et si souvent tu vois que t'as été ponctuel, bah tu dis je suis un mec ponctuel,
ouais.
Donc en réalité, la vision, l'image que t'as de toi-même, elle dépend de tes expériences passées.
Ouais.
T'es pas né en étant ponctuel ou en étant pas ponctuel. T'as pas eu une image de toi dès la naissance.
T'as prédisposition à être ponctuel.
Alors ça, c'est une question intéressante. Suisse. Mais tu sais que ça,
c'est proche de l'Allemagne.
Ouais, possible, mais c'est pas autant qu'Eric, comme on en parlait.
Eric, ça se voit qu'il arrive à l'heure. Non, c'est sûr.
Mais dans l'idée, tu vois, moi, c'est un peu le but de ce programme quand on coach ces mecs, c'est que on leur dit, ok, les mecs, maintenant, à partir de maintenant, on va pas attendre que vous ayez une vision de vous-même qui change pour que vous commenciez à agir différemment, parce que quand tu te vois par exemple comme une personne qui a du style, automatiquement tu vas peut-être plus facilement t'arrêter devant les vitrines pour observer les mannequins, tu vas plus facilement faire attention à la manière dont les autres sont habillés pour t'y intéresser,
ouais.
Et du coup tu vas automatiquement avoir plus de style, tu vois ce que je veux dire, alors que pour te dire que t'es une personne qui a du style, quelque part il faut que t'aies dans ton passé des éléments qui te montrent que t'as du style en fait. Donc en fait, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est que dans un premier temps, on les fait agir comme la personne qu'ils ont envie de devenir, jusqu'au stade où ils se disent qui est-ce que je suis, et ils regardent dans leur passé, ils voient qu'ils ont agi mille fois comme une personne sportive, une personne ordonnée, une personne confiante, et ainsi de suite. Et en fait, ça facilite les actions qui vont dans le même sens.
En fait, t'essayes de façonner l'inconscient. En gros, il y a, tu sais, dans la journée, les actions conscientes et les actions inconscientes. Et ce qu'on a toujours fait là, généralement, en fait, la plupart sont inconscientes. La plupart, on s'en rend pas compte, même quand on est en retard et tout. Et si on fait un effort particulier, comme là, j'ai l'impression que vous faites un effort particulier pour remodeler ce que vous êtes vraiment, tu profites des moments où t'es pleinement conscient pour te dire bon, bah, je vais prendre 20 minutes d'avance, parce qu'en fait 20 minutes d'avance c'est ce qu'il faut pour être à l'heure. C'est toujours comme ça. Et, et du coup tu dois faire l'effort conscient. C'est pas facile en vrai d'être conscient, tu vois, de faire un effort régulier, enfin d'être discipliné tout simplement. Mais après, au bout de peut-être 30 fois où t'arrives à l'heure, t'es un mec à l'heure, ça rentre dans ton inconscient. Et quand tu pars inconsciemment, tu pars 20 minutes avant.
C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, on a tous des moments où on agit de manière inconsciente, comme tu l'as dit. C'est difficile à établir un pourcentage.
La plupart des moments,
j'aurais tendance à dire, on agit par automatisme.
À quel moment t'es vraiment conscient dans ta journée?
T'es vraiment conscient quand tu fais face à une situation qui est nouvelle. Parce que là, du coup, tu dois apporter une réponse consciente. Mais quand c'est une situation qui se répète tous les jours, du style sortir de ton lit le matin, aller chier, ou genre faire un truc à manger, partir au travail, arriver au travail, commencer à travailler au travail, enfin, tous ces moments, ils se répètent tous les jours. Et du coup, ton cerveau, en fait, il a juste un mécanisme.
Sinon, tu serais en train de cramer des calories, ce serait un enfer.
De ouf. Mais du coup, tous ces moments, si tu prends pendant un moment de lucidité, si tu prends le temps de te dire, ok, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là, et puis que tu les réordonnes à chaque fois, tu dis, ok, au lieu de faire ça, je vais commencer à faire ça, au lieu de faire. Mais ensuite, comme tu l'as dit, tu profites de tous ces moments où inconscient pour qu'ils jouent en ta faveur plutôt qu'en ta défaveur, parce que la plupart des gens, en fait, ils juste par manque de conscience,
c'est le plus important,
ils se laissent drifter dans une direction sans s'en rendre compte en fait. Mais du coup, une question, c'est que tu vois un peu ce que c'est l'épigénétique?
Oui, mais est-ce que tu peux c'est à quel point tu peux modifier l'héritage génétique que tu vas donner sur assez peu de générations, quoi.
Exact.
L'épigénétique, en fait, c'est quoi la limite? Parce que du coup, la génétique, on part sur, je sais pas quoi, de Néandertal à nous, un truc comme ça.
Mais je crois que c'est trois générations.
Trois générations?
Bah, en fait, j'ai un mec.
C'est passionnant, ça.
Ah, mais mec, j'ai un mec dans le coaching, il m'a demandé si je basais mon truc dessus. J'ai dit non, mais il m'a dit, ah, mais en fait, c'est ouf parce que ce que t'es en train de raconter, ça s'aligne complètement sur cette histoire d'épigénétique, parce que d'après eux, t'as genre 80% de tes gènes qui peuvent être modifiés, sur lesquels t'as le contrôle. 20%,
80%,
ouais. Ah, c'est énorme. Mais 20% sur lesquels t'as
coup,
pas
modifié
le contrôle.
Sur. Ok. Modifié sur combien de temps?
Au cours de ta vie.
Non.
Au cours de ta vie. Je vais peut-être. Alors lui,
c'est remis en question.
Lui n'était pas un expert.
Ouais.
Je sais pas.
Moi, par contre, j'adore cette idée.
Alors moi, j'ai pas
vraiment 80%. Je signe.
Ah ouais, mais moi aussi, mec. Mais dans l'idée, tu vois, moi aussi, j'ai trouvé ça assez stylé, parce que ça veut dire que, ok, t'as 20% des gènes sur lesquels, c'est-à-dire ta taille, ton poids ou des trucs comme ça, où tu peux pas décider de grandir parce que tu décides de grandir. Mais tu vois, on a eu cette idée qui est arrivée dans un premier temps, où on a capté que, en réalité, tu pouvais transmettre des caractéristiques psychologiques ou physiques que t'avais acquises. Parce que pendant longtemps, on pensait que tu peux seulement transmettre ce qui est inné.
Ouais.
Et ce qui veut dire que.
Et du coup, est-ce qu'on en est sûr de ça?
Bah, je sais pas, et j'ai bien envie d'inviter une personne qui est spécialiste en épigénétique pour lui poser plein de questions et en fait essayer de défoncer cette théorie, parce que si ça c'est vrai, ça veut littéralement dire, ça explique par exemple pourquoi ma sœur elle est pas pareille que moi. Tu vois ce que je veux dire? Elle est différente sur plein de points vis-à-vis de moi. Et ça veut peut-être, c'est peut-être dû au fait que mes parents, au moment où ils m'ont eu moi, bah en fait ils étaient très différents que 7 ans plus tard au moment où ma sœur est née. Et du coup,
après, j'ai l'impression que c'est quand même une petite partie des différences que t'as avec ta sœur. Tu vois, il y a par exemple, il va forcément y avoir le genre et toutes les caractéristiques qu'il y a autour. De toute façon, on est sur de la broscience depuis le début.
Voilà, exactement.
Il y a très peu de sources ici.
Mec, genre, moi, il y a un truc que je capte pas sur le genre, et dis-moi si tu comprends.
Ouais.
C'est que, ok, on a le sexe qui serait genre.
Il y a la différence sexe et genre en gros.
Ouais.
C'est ça, sexe c'est ce qu'on a physiologiquement, ce qu'on est physiologiquement.
Exact.
Et genre c'est ce qu'on est psychologiquement.
Ok. On pourrait définir le sexe, parce que pour être sûr de bien être précis, est-ce qu'on parle de chromosomes ou est-ce qu'on parle d'attributs sexuels? Parce qu'il y a des gens.
C'est la même chose, non?
Mais en fait, il y a des gens qui ont des. Ou alors.
XY c'est homme et XX c'est femme.
Exact. Mais il y a des gens qui ont des attributs qui sont XX ou qui sont par exemple XY et qui n'ont pas de bite.
Ou alors, sûr.
Ouais, je crois qu'il y a des trucs comme ça. Oh, trucs, je voulais pas dire ça.
Il y a des monstres. Il y a des monstres. Et qu'on est tentacules. Ok, non, non, bah restons sur les chromosomes, ok.
Mais on va dire genre,
bien sûr.
XX, t'es de sexe masculin. Non, XX, ouais. T'es de sexe féminin, du coup. Ouais. XY, t'es de sexe masculin.
Ouais.
Le genre, à partir de là, t'aurais l'identité de genre, qui est comment toi tu te visualises,
ouais.
Et l'expression de genre, c'est comment est-ce que tu reflètes aux gens.
Ouais.
Par exemple, tu peux être de sexe masculin.
Mais attends, ce que tu reflètes aux gens, du coup, ça se base sur ce que les gens pensent de toi.
Voilà, mais c'est ça. Alors c'est là que je vais.
Donc ça fait trois trucs.
C'est là que tu vas m'aider, mec.
J'ai envie de faire des tableaux. J'ai envie de tracer des traits là. On est d'accord, ça fait trois trucs.
Ça fait trois trucs.
Il y a le scientifique, le psychologique et le social.
Ouais, on peut le voir comme ça.
Ok.
On peut le voir comme ça. Donc sexe, c'est le scientifique.
Très bien.
Identité de genre, c'est le ressenti. Et expression de genre, c'est comment les autres te perçoivent.
Très bien.
Ok. Maintenant, moi, le terme identité de genre et expression de genre, ils me font poser des questions parce que comment est-ce que... Admettons, je dis maintenant, ok, moi, je suis de sexe masculin, tu vois, genre, j'imagine, enfin, parce que, genre, j'ai pas été testé, faire un test de chromosome, mais genre... À moins que je fasse partie des... je pense que j'ai les chromosomes
XY. Tu sois un monstre du cirque, t'es un mec normal.
Un mec, oh, les gars, prenez ça avec humour. Enfin, je sais que... Bah non, mais en fait, si tu veux... Non, mais oui, je sais.
Si on peut plus rien dire.
Tu me sens bridé sur ma chaîne YouTube. Moi, on peut faire
de blague. Cette époque ne me convient pas.
Ouais, vraiment, mec. Bref, en gros, genre, si j'ai une identité de genre masculine...
Mm-hmm.
Ça voudrait dire que je me
considère. Je vois, identité, du coup, c'est si on te perçoit comme masculin.
Non, c'est comme tu sens. Expression, c'est comme okay, c'est ce que okay. T'exprimerais, si tu veux.
Oh, okay.
L'expression, tu peux te voir. L'identité, c'est un truc personnel, genre que je ressens au fond. L'expression, c'est ce que t'exprimes aux autres.
Très bien.
Donc, si mon identité est masculine, ça voudrait dire que j'ai une série de comportements ou ouais. De sensations, d'émotions dans mon ressenti qui me font dire que je suis un homme. Ok ? Maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Déjà, parce que...
Ça veut dire que ça appartient au dénominateur commun masculin, en gros.
T'entends quoi par là?
Bah, ce qu'on voit chez la plupart des hommes, c'est très... En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de frontières.
Mm.
C'est ça qui est intéressant, en fait, avec ces histoires de genre. C'est qu'à la fois, il n'y a pas de frontières claires,
ouais.
Et en même temps, il y en a.
Bah, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu acceptes qu'il y a... Parce que du coup... T'as dit, c'est ce qui appartient à la plupart des hommes. C'est-à-dire que si je fais preuve si je suis capable de m'affirmer, si mm-hmm. je suis capable de montrer combatif, mm-hmm. si je suis capable de montrer du courage, de la bravoure et ainsi de suite, mm-hmm. on va considérer que c'est des caractéristiques qui sont plutôt masculines mm-hmm. et on va se dire du coup, bah si moi je ressens ces caractéristiques au fond de moi, bah je vais avoir une identité de genre, donc je vais me sentir homme.
Ouais.
On peut se dire ça, ok ?
Ouais, ouais.
Maintenant, si on va considérer ensuite que à contrario, il y a des caractéristiques des émotions ou genre des traits de caractère qui sont plutôt féminins.
Oui, bien sûr.
À savoir peut-être la compassion, la tendresse, le...
La vaisselle. Genre,
ouais, la vaisselle.
Oh, non, je cherchais un truc comme ça, mais je
suis plus utile. Quelle horreur, je crache sur la tête. Je suis à l'âme, mec.
Je suis misogyne et je crache. Voilà.
Bref. Mais du coup, ça veut dire que... Mais en fait, le truc qui est bizarre, c'est que moi... j'ai à la fois des caractéristiques masculines et à la fois des caractéristiques féminines. C'est-à-dire que
ah oui,
je peux faire preuve
monde.
De courage. Et tout le monde,
ouais, ouais, heureusement. Parce que, en vrai, c'est quand même très très gênant. Les types, tu sais, à l'adolescence, ouais. Quand tu comprends que c'est avec des caractéristiques masculines que tu vas pouvoir draguer des filles,
ouais.
Il y a des mecs qui les prennent toutes. Tu sais, ils vont sur des sites de séduction ou je ne sais quoi, et ils prennent tout le masculin de A à Z.
Ouais.
Et donc, c'est pas naturel. Parce que ça correspond pas exactement à. Tu vois, des trucs. À ce qu'ils sont au fond.
Ouais.
Donc il y a un décalage entre ce qu'ils sont au fond et ce qu'ils veulent être parce que le site de séduction leur a dit si mais un homme ça fait ça.
En fait ils
deviennent très très gênants. Moi j'ai eu des sentiments de malaise en soirée parce qu'en plus quand ils sont étant jeunes on est quand même moins sexué que plus vieux. Tu vois d'accord. Adolescent je trouve qu'on est ouais, moins sexué que les années qui vont suivre quand on devient adulte.
Par sexué t'entends quoi?
Sexué, c'est-à-dire qu'on s'affirme, comment dire, bah un homme sexué, on va plus se reconnaître comme homme,
d'accord.
Qu'un,
donc il y a une expression de genre plus marquée.
Ouais, mais avec tout qui va avec, c'est-à-dire que tu vas avoir, j'en sais rien, ta mâchoire, tes traits qui vont d'accord. Commencer à se dessiner et à ressembler de
quoi.
Plus en plus. Hein?
T'es plus androgyne quand t'es adolescent.
Ouais, c'est ça, okay. C'est ça, et tu le deviens de moins en moins.
D'accord. Androgyne, c'est juste pas que j'ai utilisé le mot.
Androgyne, c'est le doute. Enfin, c'est pas le
bref.
C'est des gens qui ont des airs féminins. Tu vois,
un peu féminin, un peu masculin. C'est,
ouais, c'est, ça, c'est ça.
C'est une expression de genre neutre.
Je sais même pas si c'est dans l'expression de genre.
Je pense que c'est ça. Hein.
C'était avant que tout ça existe, je crois.
Bref, ok, je retire le mot androgyne.
mais en tout cas, ouais, du coup, ça fait que ces mecs-là sont extrêmement gênants parce qu'il y a un décalage et on sait que c'est faux. On sait qu'ils font des trucs beaucoup trop masculins.
En fait, ils sont pas eux-mêmes. En fait, c'est ça qui se ressent. Et c'est ça qui se ressent aussi du point de vue des meufs. C'est que les meufs, elles ressentent que le mec, en fait, il est pas en train d'être lui-même. C'est et quand ça. Toi, t'es pas toi-même c'est dans ça. Une interaction humaine, que ce soit avec une meuf ou avec un mec, c'est hyper gênant parce que tu peux pas t'épanouir dans ton interaction. Parce que tu dis, en fait, je peux pas être moi-même parce que peut-être que si j'étais moi-même, cette meuf, elle me validerait pas. Ou peut-être si j'étais moi-même, ce mec, il accepterait pas d'être pote avec moi.
Mais d'ailleurs, sûrement qu'elle te validerait pas. C'est ça qui est terrible, c'est que en vrai, il fait ça, il tente le tout pour le tout. Il a fait son truc mascu à fond. Et en fait, bon, il va pas se faire valider parce qu'il met tout le monde mal à l'aise avec ses cris en soirée. Ouais,
si, admettons qu'il se fasse valider. Admettons qu'il réussisse à atteindre ses fins. Et que. Admettons que ses fins, ce soit dans un premier temps juste exploser la meuf. Et il y arrive.
Ouais,
qu'est-ce qui se passe ensuite?
Genre déjà, mais déjà, c'est qu'il est assez doué. Mais parce que les femmes ont quand même un très bon radar pour être gênées par
mais
ça.
Mais genre, un truc, je me suis fait une réflexion, mec. Ouais. Et tu me dis ce que t'en penses. Mais genre, on en a parlé avec les mecs du coaching quand je leur disais, genre, d'être eux-mêmes dans les relations. Et quand je dis, genre, être toi-même, c'est te montrer en fait tel que t'es. Ouais. Et pas essayer de te maquiller, genre, de créer un avatar de toi plus stylé que toi pour essayer de choper la meuf. Je disais, en fait, faut que tu viennes comme t'es. Et si tu sens que tu peux pas venir comme t'es, parce que en venant comme t'es, tu te feras rejeter par la meuf parce qu'elle est. C'est juste, en fait, accepte qu'elle est dans une ligue au-dessus de toi et qu'elle a tellement plus d'opportunité en termes de relation que toi et que du coup si tu sens que tu vas pas pouvoir aborder une meuf en étant comme toi, c'est juste que tu dois bosser sur toi jusqu'à ce que tu puisses aborder cette même meuf en étant toi-même si tu veux. Mais en gros, si tu abordes une meuf et que tu réussis à la ramener dans ton lit sans être toi-même, en fait c'est pas toi dans la relation avec la meuf quand tu discutes avec elle, c'est l'avatar que t'as créé parce que c'est avec elle qu'elle est en train avec cet avatar qu'elle est en train d'interagir. Mais aussi quand elle est dans ton lit, en fait c'est pas toi qui la baise la meuf.
Oui, mais en même temps, c'est toi.
Non. Si. Mais en fait, si tu veux, c'est ça.
Quand
le truc,
tu vas rejoindre tes potes, que... le lendemain, ce sera toi.
Ok, non. Bah oui, je sais. Mais genre, la baise, en fait, c'est un truc de ouf parce que tu peux. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça le truc qui fait que sexuellement, j'ai réussi à m'épanouir beaucoup plus ces deux dernières années. Avant que. Enfin, non, maintenant, je suis vite fait épanoui parce que ma meuf, elle est en Hongrie, tu vois, donc c'est chaud.
Mais genre. Tu vas pas dire que t'es épanoui alors qu'elle est pas là.
Mec, elle va bientôt revenir, c'est bon. franchement, c'est trop. En plus, j'ai fait un podcast sur les relations à distance il y a genre 2 semaines. Mm-hmm. Et c'est arrivé vraiment au moment où je me suis mis en couple avec cette meuf qui était à distance. Et le sujet, je l'avais déjà prévu depuis un moment. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a des relations où tu vas coucher avec une meuf et souvent les mecs disent c'est marrant parce que c'est pas forcément la meuf la plus canon avec laquelle tu vas avoir le meilleur sexe si tu veux.
Ouais,
des fois t'es une fille, elle est beaucoup moins bien et tu sais pas pourquoi, mais il y a une bête de connexion sexuelle, il y a une bête alchimie, et après tu te dis ah mais c'est peut-être parce qu'on avait une meilleure connexion, tu vois, genre. Et en réalité c'est ça, je pense. Je suis pas sûr, mais c'est peut-être une hypothèse intéressante.
Qu'en réalité, c'est que c'est vraiment toi qui es dedans.
C'est parce que vu que la meuf elle est pas aussi bonne, ben t'as pas eu peur de te montrer tel que t'étais toi-même, t'as été plus naturel, et c'est vraiment toi qui l'as baisé, tu vois.
Okay.
Elle a sucé ta bite, mec. Elle a pas sucé la bite de l'avatar, mec. Elle a pas sucé la bite bleue, mec.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, peut-être qu'elle a compensé le fait d'être moins jolie que l'autre, et que l'autre a jamais eu à compenser quoi que ce soit, parce qu'elle faisait exactement ce qu'elle voulait.
Ah, c'est possible, mec.
Ouais. Mais non, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant ces histoires de caractéristiques, ouais, et puis même ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire caractéristiques masculines et féminines. Parce que si on sonde vraiment et qu'on note tout ça, on se rend compte que bah, généralement, quand même, on est majoritairement de notre sexe. Je fais des généralement, je fais des.
Ouais, enfin, tu veux dire, on a des. De manière générale, on n'a pas besoin de dire ça. Genre, en tout cas, on part du principe qu'ils sont intelligents.
Oui, ouais.
Sinon, ils sont déjà barrés. Les autres, ils sont déjà partis.
C'est possible. J'ai fait le. C'est vrai que t'as fait le tri à ce moment-là.
C'est vrai. On a mis la limite.
Ouais, c'était très peu.
Si t'as envie de balancer un truc hardcore, dis-moi et puis je rebalance un coup de.
Un coup de. non, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. Parce qu'il n'y a même pas question d'exclure. Il y a effectivement des exceptions, une petite partie des gens qui ont une majorité de l'autre côté. Pour être plus clair, en gros, il y a une minorité d'hommes qui va majoritairement avoir des comportements féminins.
Alors, ok. Mais je vois ce que tu veux dire, mais. Déjà de 1, comment est-ce qu'ils le savent? Parce que, en fait, tes comportements, t'as le comportement au moment où la manière dont je t'accueille quand tu rentres chez moi, Ouais. Je t'offre un verre d'eau, je me montre hospitalier, ok, plutôt féminin. Je vais aux toilettes, la porte des toilettes elle ferme pas complètement, je me permets de chier avec la porte ouverte plutôt quand t'es là alors que je te connais pas, plutôt masculin. En fait, c'est tellement complexe, c'est tellement genre une infinité de moments.
Ouais, mais on le sait instinctivement.
Bah, du coup, c'est marrant, mais est-ce que le fait. Ok, d'accord.
Soit.
Bah, vas-y, peut-être va au bout de ton point.
Admettons qu'on sache.
On a le ressenti.
Ouais, je dirais juste qu'on le sait instinctivement, il y a des majorités, et après, oui, si on va chez chacun, on va se rendre compte qu'il y a des nuances, et on a tous des comportements de l'autre sexe. Et généralement, si t'essayes complètement de les brider, et te dire « Ah non, pas ça, parce que c'est féminin », ça va ressortir de manière que tu ne veux pas du tout. Ouais, c'est ça, il y a un moment, tu vas glisser sur un gag, ça va...
C'est qui dit ça? Genre tout ce que tu réprimes, ça revient plus tard.
Jung dit ça, c'est très sûrement lui.
Je te mets pas mal à l'aise là en bougeant avec ma bague comme ça. Je sais pas si t'as vu, bah du coup vu que t'es fan de Peterson aussi,
ouais.
Il racontait que il y a une de ses clientes, ouais, qui a porté plainte contre lui. Je crois qu'elle avait porté plainte contre lui parce que pendant une session de psychothérapie, si tu veux, il jouait, exactement comme je suis en train de jouer avec ma bague. Ah, et puis elle a pris ça comme un signe de truc freudien.
Et puis elle s'est dit qu'il avait de l'argent et qu'elle pouvait porter plainte peut-être aussi. Ouais. Parce que c'est peut-être ça. Parce
tu peux essayer, mec, j'ai de l'argent, mec.
Ouais, ouais, c'est ça. Non, je crois qu'elle a chipoté.
Ça te met mal à l'aise là ou pas?
Bah, maintenant que tu le dis, oui.
C'est vrai?
Mais avant.
Tu veux que j'arrête?
Pose là.
D'accord, ok, ça marche. C'est l'anneau de pouvoir.
Oh mon dieu.
Ok, d'accord. Bon.
Du coup, on disait. Non, mais oui, en fait, ces trucs là sont intéressants parce que si on sonde chaque individu, on se rend compte que oui, ils ont tous des nuances et que tu vas avoir ceci, cela. Et effectivement, si tu réprimes complètement, ça peut ressortir très mal. Ce qui est marrant, c'est les espèces d'homo extrêmement virils. C'est vraiment dans l'extrême de la virilité. Tu sais, il y a, comment on appelle ça, les ours, un truc comme ça. Non, pas les vrais ours, mais il y a un type d'homosexuel, tu sais, un peu motard, tout ça.
Frère,
très
c'est pas l'espèce de fitness model avec la barbe et tout. Il y a une photo d'un mec genre qui traînait un peu sur Insta où on se demandait si c'était un vrai homme ou si c'était un montage photo.
Parce qu'il était genre Chad, machin, ouais, voilà, Giga Chad.
Non, je crois que j'ai vu le terme.
Oui, alors j'aurais pas utilisé lui, mais oui, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, parce que lui par exemple il est chargé, c'est un truc que j'ai déjà entendu en fait, que justement au moment où tu te charges, vu que t'as la testostérone qui va monter beaucoup, tu vas avoir une compensation
en oestrogène.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ça peut se voir physiquement. Et c'est là que en fait tout s'aligne. C'est là que en même temps t'as ton sexe de naissance. Enfin, tu as t'as le côté scientifique. Du coup, la gynécomastie qui fait des seins.
Ouais.
Du point de vue psychologique, justement, il y a de l'homosexualité.
Je crois que j'avais fait un podcast avec ma sœur où on parlait de ça, et puis je crois qu'elle me disait que on voit que chez les personnes, je crois que c'est chez les personnes hétérosexuelles, qu'à un moment donné, il y a un pic de testostérone pendant la grossesse.
Oui, c'est ça. Et à la naissance. Moi, c'est la théorie que j'ai entendue, en tout cas. La théorie que j'avais entendue, c'était pic de testostérone, et si les hommes l'ont, alors ils deviennent hétéros, et si les femmes l'ont, alors elles deviennent lesbiennes.
D'accord, ouais.
En gros, c'est ça. C'est.
Mais du coup, là, se charger en musculation, ça ferait.
Non, c'est pas systématique ce que j'ai dit, c'est juste que il est connu qu'il y a le. Bah, t'as vu la scène dans Fight Club, sûrement, avec les.
Ouais, tu vois, le
mec avec les
salles qui fait des câlins et tout.
Mais c'est ça. Parce que brutalement, en fait, il a dû beaucoup se charger, beaucoup avoir de testo, et brutalement, il a arrêté. Et du coup, il a eu. En fait, son corps étant abreuvé en testo, a arrêté d'en produire. Et donc il y a l'inverse, en fait, il y a le très œstrogène.
Mais le truc c'est que, alors, j'ai l'impression, enfin là je suis pas sûr, parce que là on est dans deux catégories.
Ouais.
Tout d'abord on parle de l'identité sexuelle, c'est-à-dire ton sexe, et le ressenti de ton sexe et l'expression de ton sexe, et là on est en train de parler, avec l'homosexualité, on parle d'attirance sexuelle, et pour moi c'est deux choses qui ont rien à voir, tu vois.
Le premier, c'était l'identité. Donc ce que tu
comme
ressens.
Comme toi, tu te vois,
ouais,
comme
ça va ensemble.
Je sais pas. Non, pas du tout. Tu peux être une personne très masculine et être attiré par les hommes ou par les femmes. Tu vois, la preuve qu'il y a des homos qui sont très masculins et des homos qui sont très féminins.
Oui, mais très généralement, quand même, chez un homme qui va être très féminin, il y a une forte chance pour qu'il soit homosexuel.
Je sais pas, mec. Je suis pas certain.
Bah, ça va. Dans le féminin, il y a l'attirance pour le masculin.
Bah, du coup.
Arrête, prenons le cliché. Mmh. Tu vois le cliché. Je vais pas le faire, on va pas faire sauter ta chaîne comme ça. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, tout le cliché avec le shopping, avec la totale. Ouais, ouais, avec ça, mais plus, avec des... Mmh. Bon, et ben, il y a beaucoup de chances. Tu te dis quand même qu'il y a plus de chances qu'il soit homo.
Ouais, mais est-ce qu'au final, c'est pas parce que le mec est homo qu'il se dit... fait qu'il va lui-même se voir comme un homo et du coup, comme on disait peut-être au début, se mettre à adopter des caractéristiques comportementales féminines.
Non, moi je pense que ça va ensemble. Il va être attiré, ayant des caractéristiques féminines, il va être attiré par quelque chose de masculin. Alors possible. Peut-être qu'il ira le chercher chez une femme d'abord masculine parce que, j'en sais rien, tu vois, il veut pas. Et puis... mais généralement, s'il est allé jusqu'à le poignet cassé, le shopping, tout ça, c'est qu'il il doit savoir. C'est ou en tout cas, les gens autour de lui savent. Non, mais souvent, c'est ça. C'est le, l'entourage
dit jamais, là, vous me demandez si c'est fondé, ce qu'on dit. Sachez que 100% fondé. En fait, on est des experts sur le sujet de A à Z.
Ah, on a toutes les sources.
On t'appelle encyclopédie, d'ailleurs.
C'est comme ça qu'on appelle.
C'est ton nom de famille, en fait.
C'est mon nom de famille. Okay. Et je pourrais t'envoyer un DocX avec toutes les
sources.
À toutes les sources de tout ce que je dis.
Intéressant.
Depuis le début de mon existence. Mais non, c'est pas sourcé, bien sûr que non.
Sujet suivant.
C'est de la vraie science à fond.
Sujet suivant, est-ce que t'as envie de proposer le sujet suivant?
Non mais attends, il y a quand même des sujets qu'on n'a pas achevé, non?
Je vais faire... Non.
Parce que je crois que le genre a coupé un sujet qu'on avait...
Juste avant de parler du genre, on a parlé de la drogue, on a parlé de l'image de toi-même, l'identité, enfin la façon dont tu te voyais.
Ah, c'est intéressant.
Et d'épigénétique...
C'est pas mal. C'est très très enthousiasmant ce que tu dis sur l'épigénétique. Moi j'ai un gros doute sur le fait que ce soit aussi influent sur la suite. Bah, je crois quand même que ça se façonne sur je sais pas combien de générations.
Moi tu sais, moi j'ai eu un peu cette moi pendant longtemps, tu vois, j'avais l'impression que voilà, il y a une grosse part de il y a des différences biologiques entre les gens et des différences qui sont liées à l'éducation. Tu vois,
et par biologique,
j'entends des différences génétiques plutôt.
Ouais.
Et mais ce que je me dis, c'est que en faisant ce coaching avec ces mecs, on s'est vraiment rendu compte qu'en réalité, enfin juste en discutant et puis en posant des bases, on se rend compte que tu peux vraiment décider de la personne que tu as envie de devenir. Si tu te vois comme une personne qui est confiante parce que tu regardes, parce que pendant X temps, ou comme une personne ordonnée parce que tous les matins tu as fait ton lit, au bout d'un moment, à chaque fois que tu fais ton lit, ouais, tu renforces ton identité de mec ordonné, au bout d'un moment, tu dis, ah, je suis un mec ordonné, bah, tu commences à agir comme une personne ordonnée. Si tu te forces à aller parler avec des inconnus dans la rue, bah, 3 mois plus tard, après l'avoir fait tous les jours, tu regardes dans ton passé et tu dis, ah, c'est marrant, je parle pas mal avec les inconnus dans la rue, c'est que je dois être extroverti, donc plus facilement tu vas aller aborder des inconnus dans la rue parce que tu te vois comme quelqu'un d'extroverti et tu le deviens réellement, tu vois. Et en fait, je me demande jusqu'à quel extrême,
par exemple,
tu peux pousser.
J'ai un doute. Je pense que tu peux, en fait, par exemple, que tu restes un introverti, mais un introverti qui parle à des gens à l'extérieur.
C'est comme ça que je le voyais aussi. Comme ça que je le voyais aussi. Et en réalité, comment est-ce qu'on pourrait le savoir quelque part? Bah, bonne question. Parce que moi, j'ai toujours, en fait, j'ai jamais vraiment aimé, si tu veux, bah, tu vois, je pense que les deux, on connaît bien Peterson, si tu veux. Et il y a un peu cette idée selon laquelle, si tu pars du principe que l'homme est 100% malléable, que tu peux faire ce que tu veux d'un être humain, bah, quelque part, ça justifie via de la pression sociale, c'est-à-dire via la mise en place de structures pour façonner l'être humain de la manière dont tu penses qu'il devrait être.
Ouais.
Et puis, du coup, en fait, c'est juste la personne qui est au pouvoir, le groupe politique qui est au pouvoir, qui peut juste construire tous les gens. Et ça, c'est juste
ce qui se passe en France.
Bah.
Non,
sujet suivant.
Non, pas à ce moment-là. En plus, je le pense pas vraiment. Je pense pas du tout que ça façonne complètement les gens. Mais c'est vrai qu'on a. Il y a quand même une grosse influence. Et. Qui a créé une norme. Et c'est très bien comme ça. Hein. Je pense qu'il faut une norme.
Une grosse influence, quoi?
Qui a créé une norme, par exemple, médiatique, politique.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Enfin, tous ces, en tout cas, ce sur quoi on peut influencer les gens.
Ok.
Culturel.
D'accord.
Ouais, essentiellement, ramenons ça essentiellement au culturel. Et oui, je pense qu'on peut modifier comme ça, que ce soit abrutir ou des trucs plus fins, des, orienter les gens.
Bah, il y a en même temps les études sur le paradoxe du genre, tu sais, en Scandinavie, t'as peut-être entendu parler de ça.
Ouais, c'est intéressant. C'est le fait que en fait ils ont le système le plus égalitaire et que en ayant le système le plus égalitaire, il y a plus de
différence hommes-femmes.
Ouais, de différence hommes-femmes.
Et que les pays qui ont les systèmes les moins égalitaires, du style les pays nord-africains par exemple, bah c'est les pays où justement t'as le plus grande proportion de femmes ingénieurs. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que
c'est étonnant.
Si t'as les différences, bah, en fait, c'est juste logique quand tu penses. Enfin, c'est contre-intuitif parce que tu dis, viens, on met des polices, enfin des comment on dit policies, on met des normes égalitaires.
Moi, bah, je me dis
on
pas
va
ça.
Avoir une société plus égalitaire, tu vois. C'est la logique logique, tu vois.
C'est là, en fait, ouais, c'est le problème de la logique, c'est le problème du rationnel. C'est le problème de l'enfer rationnel, c'est rationaliser complètement une société et se dire, comment dire, ne pas expérimenter les lois. Ne pas expérimenter les règles qu'on va mettre. Par exemple, moi, en gros, l'importance de la tradition, c'est que c'est des règles qui ont été très expérimentées par beaucoup, beaucoup de générations, et donc on les récupère sans poser de questions, parce que ça a marché jusqu'à... Et ça peut être très con, si on va à l'extrême de la tradition, c'est très dogmatique, et on dit juste, même si le monde change, oui, mais on a toujours fait comme ça, donc on garde ça. Et c'est quelque chose que je comprends. Et de l'autre côté, il y a, en fait, comment on met d'autres normes ? Bah, en réfléchissant. Et donc en réfléchissant, généralement, en tout cas si c'est un pur esprit déconnecté du corps, ça nous donne l'URSS quoi. Pour moi l'URSS c'est un système purement, c'est extrême rationnel. Il se prévalait même de la science, tout ça, tout se basait sur des trucs très scientifiques. Mmh. Et en fait c'est juste que quand tu le vis, ton corps dit je suis pas bien, j'ai faim. Enfin, il dit des trucs comme ça, tu vois, ton corps dit des trucs, alors que ça devait être un paradis rationnellement.
Mmh. C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Je suis un peu parti en couille, mais je...
Non,
c'était
non, mais
par
je...
rapport à ce que tu... Oui, oui, tu disais justement mettre des normes pour égaliser les choses, et l'extrême inverse, ça aurait été la tradition qui dit non, mais il y a toujours eu un rôle pour les hommes et un rôle pour les femmes, et on va continuer comme ça, parce que ça a été prouvé par les générations. Et en même temps, il y a une sagesse là-dedans, et en même temps, le monde a tellement changé depuis, prenons 50 ans, que forcément c'est à remettre en question.
Ah oui, alors ça, c'est
après
c'est
en Occident ça. On remet ça, beaucoup beaucoup en question. En France par exemple on remet beaucoup en question, et dans le nord de l'Afrique ils remettent peut-être un peu moins en question, même beaucoup moins.
Exact. Souvent en fait j'ai l'impression que les gens qui remettent en question les gens ont trop facilement tendance à remettre en question un système alors qu'ils ont aucune expérience de vie, en fait, tu vois.
C'est insupportable.
Et...
Mais c'est la bourgeoisie bolchevique, ouais. C'est ce qu'elle a fait. C'était des bourgeois qui sont revenus comme ça, qui ont vu l'Europe de l'Ouest. Il y a 2-3 socialistes qui les ont dragués parce qu'ils étaient hyper éloquents et qu'ils écrivaient bien. Et ils sont revenus, ils ont dit, mec, je sais ce qu'on va faire. L'empereur.
C'est comme le mec des Khmer Rouges, là. Je sais, le mec, il était à Paris ou en Suisse, un truc comme ça. Je crois qu'il était à Paris.
Ah, mais souvent,
à l'université à Paris.
Ah, mais c'est nous qui avons tout donné.
Frère, vous avez, les gars, alors je vous explique ce que les Français vous avez fait.
Juste les gars, c'est nous, hein. C'est nous.
Non, moi, je suis
c'est les 60 millions. Non,
moi, je suis ce suis, mec. Nous, on est neutre, mec.
On va parler de l'or que vous avez gardé.
L'or des nazis, mec. Tu veux parler de ça, mec. Mais en gros, c'est l'or des juifs, en réalité.
Ok, fais attention aux mots qui...
J'ai failli dire feu, c'est vrai. C'est feu juif, tu vois, c'est pas méchant. Bref, t'es de quelle religion, mec ? On peut parler religion ?
On peut parler religion. Je me sens catholique.
Donc ton expression, de ton identité
de genre,
ton identité religieuse...
Ouais, en fait, de base, j'ai été très longtemps athée, comme tous les enfants français aujourd'hui.
Comme...
Ah oui ?
Ouais, moi je rejetais la religion, je vomissais dessus, en fait.
Ouais. T'as été entraîné à vomir dessus ou
Non, c'est juste au esprit de contestation, rationalisme à 100%. En plus, on m'a inscrit au catéchisme et tout quand j'étais petit.
Ah oui,
et
quand
je
même.
Je vomissais sur ces trucs. Mmh. Et en fait, j'ai commencé à capter au bout d'un moment qu'en fait, il y a deux façons de... En fait, la réalité scientifique, elle ne suffit pas à tout t'expliquer, si tu veux. Et qu'un concept religieux, il peut être tout aussi réel au sens où quand tu l'appliques, ça marche. Tu vois ? Et c'est difficile d'expliquer ça parce que... Parce que c'est tellement compliqué de... Mec, tu parles de métaphysique à des gamins de 20 ans, tu vois, toi t'as quel âge en vrai ?
J'ai 20... Je sais pas, 20 ans, hein.
T'as 21 ans ?
J'ai 25 ans.
T'as 25 ans.
Tu as 16 ans.
non, mais je me disais aussi, tu m'aurais choqué si tu m'avais dit 20 ans. Mais t'as dit, j'ai pas 20 ans, j'ai 20... Mais
j'ai toujours un doute. Plus ça avance, plus j'ai des doutes.
Ouais, pareil. Bah moi, vers 24-25 ans, je me trompais toujours d'âge.
De... Ouais, ouais, je vois.
C'est... Mais tu verras.
Là, j'ai 25.
Là, t'as 25. Tu verras, à 26, quand le jour où t'auras 26, ouais, tu remarqueras, tu vas prendre beaucoup de maturité, mec.
C'est 26 ?
Ouais, c'est pile 26. Là, t'es juste... Moi, j'ai 28. En fait, entre 26, 27, 28, c'est là où t'as le pic, tu vois.
C'est vrai ?
C'est comme le pic de testostérone, c'est le pic de maturité, mec.
Ouais, je vois, je
tu
vois.
Tu as envie de découvrir ça, mec, tu vois, c'est...
Tu me prends pour un petit... Oh, tu verras. Tu verras, t'es...
Tu verras la vie différemment, ouais, mec.
Tu sais, comme... les femmes, tu ne sais pas encore.
C'est,
mais
comme, c'est comme si t'enlevais les lunettes qui te trouvaient la vision, mec. C'est, tu vois, là, les gommettes de la caverne.
Tu es encore inconscient, mais...
Tu connais Platon, ouais, et...
Bien sûr. Ouais,
c'est pareil, mec.
Tu vas en sortir.
À 27-28, tu commences un peu à sortir de la caverne.
C'est
mec.
Vrai.
Tu bouges des cailloux et puis tu commences à regarder un peu dehors.
Je suis tellement humilié.
Frère, on a... en fait, il y a trop de portes qu'on n'a pas refermées.
Mais du oui
coup, pour revenir sur les paradoxes du genre.
Ouais.
Paradoxe du genre, c'est que l'idée, c'est que si... On s'est dit, vas-y, si on met les sociétés les plus, les règles sociales les plus égalitaires, eh ben on va avoir une société égalitaire. Mais ce qui se passe, c'est que vu que tu as des influences biologiques et des influences sociales, bah si tu réduis à zéro les influences sociales, ouais, à savoir que tu n'as plus aucune pression sociale, ouais, bah la seule pression qui reste, c'est la pression biologique.
Ouais, ouais.
Et il se trouve que comme il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, bah en fait, tu te retrouves avec plus de différences, ouais, dans les pays scandinaves où tu n'as quasiment pas de femmes qui sont ingénieures.
Est-ce qu'ils ont vraiment complètement réduit la pression sociale ou est-ce qu'ils ont mis une autre pression sociale à l'inverse ?
Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Et quelque part, c'est, je pense, il y a... Et c'est une des conclusions, si tu veux, que... Parce qu'il y a eu plein de... Frère, c'est des études qui sont hyper documentées. Ils en ont parlé même au Forum économique de Davos quand j'étais à l'armée. C'était... Parce que je dis pas que j'étais à l'armée, parce que c'était ma compagnie qui devait aller monter la garde, enfin faire la sécurité du Forum économique.
Mais t'étais dedans ?
Non, parce que du coup, parce que, en fait, c'est pile là que j'ai quitté l'armée, parce que j'étais en putain de période d'examen. J'ai demandé à l'armée suisse de m'exempter de ce cours de répétition. Parce que j'ai dit, les gars, j'ai un examen. Ils m'ont dit, vos obligations civiles passent après vos obligations militaires. J'ai fait, ah ouais, bah allez vous faire enculer.
Obligations
en fait,
civiles ?
Après les obligations militaires.
Ouais. J'essaie de faire un accent suisse. Que...
Merci, mec.
Putain, bravo.
Putain. Mais en gros, si tu veux, comme tu l'as bien souligné, il y a peut-être aussi une volonté de ne pas. Une pression qui tombe du côté des hommes ou des femmes, mais qui est de ne plus avoir à prouver quelque chose. Tu vois, quelque part, quand tu sens que tu es dans une société où on dit « Ouais, ben, en tant que femme, c'est pas stylé si t'es maçon, par exemple, c'est pas un métier pour toi.
Ouais, » ouais,
peut-être qu'il y a certaines personnes chez qui, psychologiquement, tu as la volonté de dire « Ah ouais, ben, laisse-moi te montrer, tu vois. » Et puis du coup, ils
vont
dans ce
champ-là.
Et quelque part, quand tu laisses vraiment 100%, ils sont là « Mais en fait, je peux choisir. » Donc il se trouve que les femmes sont plus intéressées par les humains que par les objets,
ouais,
bah, ils se dirigent vers la psychologie, la médecine ou des métiers comme
ouais,
ça,
ouais,
plutôt
vois,
que dans l'informatique ou la physique ou voilà.
Après, même dans les sociétés où on leur dit qu'elles n'ont pas forcément à être maçons, bah, elles ne le font pas non plus. Enfin, je veux dire, il y en a
ouais,
ça reste une minorité.
Bah,
tu vois,
c'est parce que, voilà.
Mais oui, je vois ce qui peut rééquilibrer...
Bref, c'est très, très intéressant. Ensuite, on a passé sur quoi comme sujet après avoir parlé de
c'était
ça ?
C'était intéressant. On parlait de la religion. Et tu me disais qu'à la base, tu crachais dessus.
Ouais.
Et effectivement, on est passé par ça. C'était à la mode de cracher dessus. Et on a compris un petit peu plus tard. Mais c'est bien, en vrai, c'est bien d'être passé là-dessus. Je disais que c'était haïssable. Mais j'ai envie de dire, ça se pardonne à l'adolescence.
Frère, juste avant de venir sur la religion aussi,
je
mec, parce qu'en fait, je voulais aussi dire un truc vis-à-vis de la tradition. T'expliquer du coup l'importance de la tradition au sens où c'était des règles qui avaient fonctionné pendant très longtemps.
Ouais.
Et moi, j'ai déjà fait en plus le parallèle, et peut-être ça aidera peut-être des gens à comprendre qui se disent mais non, mais les traditions, c'est con, tu vois. Genre, souvent, tes darons, ils te disent un truc, ils te disent fais pas ci, fais pas ça, ou genre tu devrais faire ci, tu veux. Et toi, tu penses que c'est des imbéciles, et 5 ans plus tard, en fait, tu comprends qu'en réalité, ils avaient raison,
ouais,
c'était soit l'abruti dans l'histoire, tu vois. Et
bah,
la tradition,
putain, je crache, mec.
Mais moi aussi, frère, mais c'est parce qu'on est des hommes, mec. C'est très masculin,
mon expression de genre. J'ai oublié mon expression de genre. Oui, mais
c'est
la tradition, c'est exactement comme ça que je le vois. Parce que, en fait, c'est juste nos autres pères. Pas P-A-I-R,
ouais.
P-E, accent grave, R-E-S, c'est nos autres pères qui sont beaucoup plus... Tu vois ce que je veux dire,
ouais.
Qui sont beaucoup plus hauts, et
bah en fait, c'est
ensemble, là...
C'est toute la génération de nos grands-parents, toute la génération d'avant, toute la génération
c'est
d'avant.
C'est tout cela,
en fait, c'est toute l'histoire de l'humanité qui ont une certaine sagesse, qui est ici aujourd'hui, si tu veux.
C'est
le changement de ta tradition, quand ta culture, elle te dit, faut pas... Je sais pas, c'est pas une bonne chose
voler,
de
voler, par exemple.
Ouais, de voler ou quand ta culture.
Les 10 commandements, c'est bien.
Ouais.
Si on suivait ça, on.
Bah, tu sais d'ailleurs par rapport aux 10 commandements, mec, l'histoire de. Bref, mec, on va ouvrir trop de portes, mec. C'est horrible, je peux pas faire un podcast avec toi. C'est la dernière fois que je t'invite.
Ouais. Allez,
à la prochaine.
religion. Ça, elle était bien cette porte. En gros, oui,
frère, on a déjà compris. Bah, ferme notre porte alors. Ferme la porte de
ouais,
la.
Mais je sais plus où elle est. Là, tu me parles d'un truc, on a fait 50 mètres, c'est pas vrai.
Bon, laisse-moi la fermer.
Elle est pas là, elle est pas là. Parce que ça fait un moment qu'on a parlé de l'autre.
Ça tourne toujours en fait.
Ouais.
C'est juste qu'il faisait froid. Ouais, ça continue.
Très bien,
c'est on est à l'aise, mec.
C'était bon au niveau de la batterie.
Je vais chercher mon kombucha, mec. Tant qu'on y est, mec. J'ai vraiment l'impression que c'est des podcasts détente, mec.
Mais c'est très détente, ouais. Non, mais oui, c'est aussi comme ça que je le vois. C'est la sagesse de nos pères. Et en fait, effectivement, le truc, c'est que ça va pas toujours avec une justification. Et nous, en tant que petits cons, on a besoin d'une justification.
Bah ouais.
On dit, ah, tu me dis ça, et pourquoi ? Et pourquoi faire ? Et après, l'idéal, c'est qu'on te dise pas pourquoi. Que tu prennes ton gadin et que tu reviennes et que la prochaine fois, tu demandes pas pourquoi. Juste, tu suis. Et quand t'es adulte, ça va beaucoup mieux quand tu suis ces choses-là.
Ouais, après l'inconvénient, disons, pour nuancer un peu les choses de la tradition, c'est qu'elle est rigide et que la société, comme tu l'as dit, et on peut revenir là-dessus, elle a beaucoup évolué ces 50 dernières années. Et du coup, il y a effectivement certaines normes sociales, certains points de notre culture qui sont plus adaptés à la société dans laquelle on est en train de vivre maintenant. Typiquement, je sais pas, c'est très difficile à dire, mais bref, j'ai peut-être pas donné un exemple dans le but de pas me planter.
Moi j'en aurais pas non plus, mais je vois à peu près.
En fait, ce que moi j'aurais dit, c'est typiquement, c'est le fait pour, par exemple, les rapports sexuels en dehors du mariage. Tu vois, genre pendant longtemps, la raison pour laquelle t'avais pas de rapport sexuel en dehors du mariage et pour laquelle la culture mettait la honte sur un homme qui n'épousait pas une femme avec laquelle il avait des enfants et mettait la honte sur une femme en fait qui couchait avec des mecs sans s'engager, c'est parce que en se comportant de cette manière, tu te retrouvais avec des meufs célibataires qui mouraient ou qui n'arrivaient pas à élever leurs enfants tout seuls, et t'avais une société qui, si elle se comportait comme ça, c'était pourri, tu vois, genre un enfant il grandit mieux quand il a deux parents, et du coup tu te retrouves avec une société de schlag si tu fais ça. Et là ce que j'allais dire, c'est que quelque part cette norme sociale de ne pas coucher avec des gens sans être engagé, elle a perdu tout son sens vu qu'on a des moyens de contraception, genre pilule, capote, tout ça.
Donc, ah mais il n'y a pas que ça pour moi.
Et voilà, et c'est pour ça que je me suis retenu, c'est parce qu'au final je pense qu'il y a... On s'en doutait pas. Je pense que aujourd'hui tous les jeunes, moi j'en ai fait partie, tu vois, on s'est dit vas-y, en fait c'est génial, tant qu'on se protège, on peut juste baiser dans tous les sens.
Bien sûr.
Mais du coup il y a eu toutes les épidémies des maladies sexuellement transmissibles dans les années 70.
Oui, il y avait ça.
Mais indépendamment de ça, il y a les conséquences psychologiques.
Je pense plus à ça. En vrai, je pense plus à ça. Et effectivement, imagine, parce que oui, moi j'ai fait, enfin on a eu à mon avis à peu près le même parcours là-dessus. Mais imagine que t'es pas que la fille avait quitté. Jusqu'au mariage, tu couches pas avec. Imagine comme t'en es amoureux et imagine comme ça soude le couple et effectivement comme les enfants, s'il y en a, auront une.
Des grosses couilles en fait, parce que au moment où tu la baisses, t'as.
Avec les plus génétiques. comme ça. Non, je pense ça pour le coup que j'aurais pas les études pour soutenir ce genre de thèse. Mais.
Moi j'ai, mec, t'inquiète. C'est, ils vont vraiment,
par contre, ils auront
des érections très fortes.
Oui. Ils seront précoces. Parce que ça fait 5 ans qu'ils attendent. Non mais. Non mais ouais, par contre ils auront je pense ce sera très sain en tout cas comme environnement familial. En fait, si le type a attendu, moi je parle de ça, c'est très abstrait, c'est comme un idéal, je donne ni de conseils parce que moi-même j'ai pas fait ça, mais je trouve vraiment que ça se défend et je trouve ça très respectable les milieux où ils ont gardé ce truc là.
Je suis d'accord avec toi, mec. D'ailleurs, c'est ce que je kiffe de ouf avec ma meuf actuelle, c'est que c'est aussi en Europe de l'Est, tu vois, ils ont un côté plus conservateur, plus traditionnel, et elle est très très traditionnelle à ce niveau-là.
T'es hongroise ?
Ouais. Et ça, c'est stylé, mec.
Ouais.
Genre, vraiment, ça, tu t'imagines pas à quel point, genre, ça. Mec, ça soulage tellement de.
C'est ça.
Qu'elle dise, je vais faire la vaisselle et tout, tu vois.
Moi j'ai acquiescé comme un con. Si je me suis laissé.
Ouais, non mais quelque part tu vois, genre ça va dans les deux sens en fait, si tu veux. C'est elle aussi, elle s'attend de ma part à ce que moi je prenne un certain rôle.
Et comme tu dis, c'est très agréable.
Mais c'est agréable
autant que rationnellement on aurait pu tout déconstruire en disant mais après tout, dans notre société industrialisée, pourquoi moi je ferais plus ces tâches-là et elle plus ces tâches-là. Mais c'est quand même agréable et j'imagine que c'est aussi agréable pour elle. En tout cas, moi c'est les retours que j'ai eu de filles avec qui on était genré, quoi, un minimum. Non, mais j'étais pas un tyran non plus. C'est pas ça. Mais ouais, ce qu'on appelle un rôle d'homme et un rôle de femme.
Mais en fait, ça rend la femme plus féminine, tu la désires plus, tu vois. Ouais, et puis quelque part, c'est intéressant de jouer à ce jeu-là, ça veut pas dire qu'un vaut plus que l'autre, déjà, parce que ça, c'est, je pense que c'est la base, on n'a même pas besoin de le dire, tu vois, métaphysiquement, face à Dieu, on est égaux, mais... Le fait d'avoir des rôles différents, ça rend le truc en fait plus. Je sais pas, ça rend
juste
plus intéressant.
C'est une répartition. Bien sûr. Non, mais oui, il n'y a pas du tout de. En fait, c'est pour ça que j'ai une petite critique envers le rationnel, que je t'ai dit ça. C'est typiquement sur ce genre de cas, on le voit. C'est que rationnellement on peut déconstruire les genres, en vrai ça marche. C'est très difficile, quelqu'un qui relativise sur le genre, c'est très difficile de le contrer rationnellement. Par contre, au niveau de l'expérience, il saura très bien ce qu'il veut, tu vois. C'est une femme qui fait ça, elle instinctivement elle peut déconstruire tout ce qu'elle veut, mais par exemple les archétypes qu'on voit à Hollywood par exemple qui plaisent majoritairement aux femmes. Est-ce qu'on peut dire que Ryan Gosling plaît plus qu'un autre homme ?
Je sais pas qui c'est Ryan Gosling.
C'est vrai ? L'acteur de Drive, Enfin, je parle généralement de l'archétype du beau gosse.
D'accord, ok.
Tu vois ? Et généralement, il va avoir plutôt des traits masculins.
D'accord, ouais.
Et ça peut même être extrême, en vrai. Ça peut être démesuré.
Ouais.
Et nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut déconstruire autant qu'on veut l'attirance qu'on pourrait avoir pour une femme et dire « Ouais, mais en fait... elle n'a pas à avoir tel ou tel attribut féminin, mais les archétypes de femmes qui vont plaire à la majorité des hommes, prenons le milieu du cinéma, c'est pareil, elles vont être très féminines.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand des gens vont me dire que c'est socialement construit, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que ça s'est socialement construit comme ça ?
C'est ça.
Est-ce parce
qu'ils ont raison en soi. Hein. C'est aussi socialement. Il y a une part de.
Mais en fait, la base, en fait, si tu veux, genre, à la base, sur quoi se construit la culture ? Parce qu'à la base, on n'a pas de culture. À la base, on est des singes, tu vois ? Genre, on vit dans une tribu de singes. Et en fait, on se met à adopter certains comportements, pas parce qu'il y a une culture, mais parce que la biologie nous pousse à adopter certains comportements. Ouais. Et au bout de 3-4 générations, vu que les singes mâles, ils s'adoptent un certain comportement, et les singes femelles s'adoptent un certain comportement, il y a la culture gentiment qui commence à venir, mais la culture est basée sur la biologie, en fait.
Donc au final, la biologie faisait que les singes mâles avaient quand même plus de force que les singes femelles, en tout cas, que déjà à ce moment-là, c'était le cas.
Je sais pas,
mec. Et la...
Je sais pas ce qui te permet de dire ça.
Là, je peux pas te suivre sur ça. Non.
Là, je
pas
des singes. Je me désolidarise, mec.
Non, mais ouais, si, je pense que c'était comme ça. Ça, c'est pareil. C'est des « je pense », il n'y a aucune étude derrière. Mais du coup, ouais, ça a façonné forcément des rôles. Et on en a hérité. Et après, des milliers d'années, ça fait une cohérence en nous qu'il est bon de suivre. C'est-à-dire qu'on se sent quand même bien quand on suit.
En fait, tu peux la suivre dans la bienveillance. C'est ça qui est cool. C'est que tu peux suivre cette cohérence, ça n'empêche pas le fait que d'accepter, si tu veux, les personnes qui s'en écartent, si tu veux t'en écarter, tu peux, et en fait, que tout le monde ait du respect et soit traité d'une manière juste, si tu veux.
C'est vrai.
Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, en fait.
Mais, oui. Allez, je mets. Il y a la limite de responsabilité, je dirais.
Au droit et responsabilité.
C'est ça. C'est le thème.
Tu veux ouvrir la porte qui est là, ouais.
Tu vas refermer les 10 autres.
Je voulais dire un truc parce qu'en fait, j'ai douté en fait d'un truc que j'ai dit. Je me suis demandé si c'était juste. Je viens de terminer de lire un livre qui s'appelle Le poids des apparences par un auteur français et c'est un livre qui. Enfin bref, genre aux États-Unis.
Qu'est-ce que c'est ? Ah oui.
États-Unis, je sais pas pourquoi j'ai dit. Mais... aux États-Unis, si tu veux, depuis longtemps, eux, ils ont toute une série d'études en psychologie qui montrent le privilège de la beauté, le privilège de l'apparence physique. Comment une personne, en fait, elle est juste avantagée de sa naissance à sa mort quand elle est physiquement.
Attirante.
Ouais, attirante.
Ouais.
Et en gros, dans ce bouquin-là, si tu veux, ils commencent par faire différentes théories sur la beauté. Donc, ils se demandent si c'est une question de symétrie, parce que c'est le cas chez plusieurs espèces d'animaux, dont des papillons, par exemple.
C'est le cas d'ailleurs. Motif
symétrique. Il y a en partie de ça, si tu veux.
Je crois que c'est Peterson qui disait un truc outrageux, mais en gros, si t'arrives à faire un montage de ton visage parfaitement symétrique et que tu le mets sur une appli de rencontre, t'as plus de chance.
Ah ouais ?
Ouais, en gros, l'idéal de ton visage, c'est une symétrie parfaite.
Alors,
c'est pas humain.
Il y a la symétrie qui joue. Ouais. Mais ce qu'ils se sont aussi rendu compte, qui était assez surprenant, c'est que ce dont ils se sont aussi rendu compte, c'est que on pense souvent aussi que la beauté, c'est un peu quelque chose qui sort de la norme. Donc en gros, et l'expérience qui a un peu troué le cul de tout le monde, c'est qu'ils ont pris genre 10 portraits de femmes, donc ils ont pris une photo de 10 femmes, Et ils ont, à partir de ces portraits de 10 femmes, ils ont créé une image composite. C'est une image qui est le résultat du mélange de tous les portraits. Et ils ont demandé en fait aux gens quel était le visage le plus attirant sur ces 9 sur
c'était
ces 11
jamais le composite.
Et c'était toujours le composite.
Ah, c'est-à-dire que c'est
les,
la norme.
Les gens, exact. Donc les gens, en fait, et du coup, là est venue une deuxième théorie sur la beauté, et se dit en fait, la beauté, c'est en réalité ce qui est le plus au milieu de tout. Donc en gros, la théorie, ce serait que depuis que t'es un enfant, toi, t'es dans ta poussette au supermarché, tu vas voir genre 50 visages par jour, et ben au bout d'un an, t'auras vu genre 2000 visages, et en gros, le visage qui sera la moyenne de ces, ou qui se rapprochera le plus de la moyenne de ces 2000 visages, ça va être un visage beau pour toi. Et quelque part, on aurait tous un peu ce truc-là. Et bref, dans ce livre-là, ils avancent, et puis ensuite ils commencent un peu à se poser d'autres questions sur la beauté, et puis il y a une des théories qui parle de l'influence des classes, entre guillemets, dominantes, mais des classes qui sont socio-économiquement plus avancées, et dont le statut socio-économique, et qui de par... sont enviées par les autres classes, et en gros, ces classes-là, elles peuvent décider de quels sont les critères de beauté. Ce qui explique pourquoi, par exemple, je sais plus en quelles années exactement en France, mais à un moment donné, être gros, c'était stylé. Parce qu'en fait, les bourgeois, ils étaient gros, et vu que tout le monde, en fait, qui fait pas être gros, mais qui fait les bourgeois, ils associaient le fait d'avoir de la thune à être gros, donc être gros, c'est devenu stylé, et puis du coup, c'était le critère de beauté. Et ça, c'était, j'ai trouvé assez intéressant. Du coup, est-ce que réellement,
j'ai
la beauté...
une petite contradiction là-dessus.
Alors, je veux bien... Alors, bien sûr, il y a l'histoire
tu
de...
Tu peux continuer, hein, si tu veux...
J'ai le truc qui vient nuancer tout ça, et je te laisse juste après envoyer ta contradiction. Le truc qui vient nuancer tout ça, c'était le critère de beauté le plus important pour les hommes lorsqu'il s'agit de choisir une femme, c'est le rapport taille-hanche. Donc en gros, plus une femme a des hanches larges
pour la naissance.
En comparaison à sa taille, ce serait pour la naissance, mais genre indépendamment de ça, ils ont juste montré des silhouettes, si tu veux, différentes silhouettes de femmes à des hommes, dessinées au crayon, si tu veux, avec des photos et tout, et à chaque fois c'est...
Du coup, rapport taille-hanche, ça veut dire que c'est quoi l'idéal, c'est
taille la plus fine possible par rapport à la hanche. C'est le ratio. C'est-à-dire que si t'as une taille comme ça, il faut que t'aies des hanches comme as, tu vois ce que je veux dire, mec. Et si t'as une taille comme ça, en fait, plus tes hanches sont larges par rapport à ta taille...
Ça, c'est complètement pour mettre au monde.
Et du coup, alors ce serait...
Parce qu'en Afrique, par exemple, ils ont, en Afrique noire, en tout cas, il y a vraiment ces critères qui sont très très développés.
Ouais, en Europe aussi, si tu veux. Et puis, pour les femmes, à l'inverse, ce qui plaît chez les hommes, ce qui plaît, ce qui plaît aux femmes chez les hommes.
C'est un rapport épaule taille.
Abdomen, abdomen, épaule taille,
Ouais, ça m'étonne pas.
Du coup, vas-y, tu voulais dire... du coup, ce qui veut dire qu'en fait, il y a quand même de la biologie dedans. Tu vois ce que je veux dire?
Genre la beauté. C'est intéressant. C'est intéressant. C'était juste justement par rapport au lien, en gros, classe sociale dominante et beauté. C'est sûr que ça va dans ce sens-là. Il y a aussi l'exemple des Asiatiques qui sont, tu sais, qui se protègent beaucoup du soleil. Parce que, comme en Europe, pendant un moment, le fait d'être bronzé, ça voulait dire que tu travailles dehors et ça voulait dire que tu étais d'une basse extraction.
Ose dire les mots, mec.
Là, c'était pas les mots que je voulais dire.
Mais à part ça, t'es 100% français, toi?
Non, génétiquement non.
Genre génétiquement t'es quoi? Laisse-moi deviner.
Allez.
T'es grec?
Non.
T'as un truc de...
Oh, c'est pas loin, c'est très très... En fait, grec, je peux valider.
T'as du sang... Frère, t'as du sang kosovar ou turc, un truc dans le genre,
c'est,
mec.
C'est très proche, t'es très proche.
Ah ouais?
Mais je crois que grec, on peut valider parce que le peuple est à peu près le même, mais c'est Liban.
Ah, t'es libanais, mais mec, ça m'étonne ça m'étonne pas, mec.
Pour une petite part, en tout cas.
D'accord.
Mais ouais, il y a ça, effectivement, le peuple libanais, en tout cas, se dit pas arabe, et comment dire, assez proche du peuple grec.
D'accord, ok.
En tout cas, c'est la Méditerranée, c'est un bordel
en
pas
fait,
possible,
un
on échange de partout.
T'as un mélange entre un voleur et un p***, en fait.
Oh merde! En vrai, fais attention à certains mots quand même. Pas avec moi, hein, avec le. Avec,
Je continuerai pour pas associer la vidéo.
Parce que des fois, l'algorithme est très con, il repère des trucs et tout.
Mais je voulais dire au sens genre un. J'ai perdu mon diff. Genre un P, genre tu vois.
Non, y'a aucun moyen de se rattraper à ce niveau.
Putain, y'a pas d'échappatoire.
Non, oui, il y a ça et Pologne.
Pologne aussi,
ouais.
Donc je fais pas continuer la blague ou aussi.
Ils sont ni.
Je sais pas, quoi.
Non, mais
l'un ni l'autre en Pologne, ce genre de blague. Il y a quoi comme stéréotype sur les Polonais?
Pas grand chose, hein. Ils ont fait des trucs pas bien.
Ouais, vous avez fait pas mal de trucs pas bien. Ah, mais t'as un PLK. Allez voir la vidéo de PS sur. C'est quoi cette vidéo où tu parles de PLK du coup?
Ça devait être un titre tout simple, genre le rap de blanc.
Très intéressant. T'as vu, peut-être à leur expliquer. Fais leur un bout de vidéo. Mec, fais une vidéo YouTube là.
Comme là, ça, tout de suite, à la vidéo, à la...
Comme ça, je me taille au pire.
Non, parce que tu sais que ça va casser toute la spontanéité.
Mais genre, explique.
Tu le fais, ce truc de PLK et de privé. Mais je peux te l'expliquer à toi ?
Ok, vas-y.
Parce que, est-ce que depuis le début, on leur parle pas un peu à eux aussi ?
Bah, je sais pas.
Est-ce que ce micro...
n'est pas, genre, ouais, l'oreille des abonnés ?
Je chuchote à l'oreille des abonnés. Moi, l'oreille droite.
Ah putain, en fait, si on leur met un son stéréo... Écoutez ça en casque.
C'est un bordel. Ça, c'est très homo.
Ça, pour le genre, coup. Avec Simon, on va vous dire en même temps d'être sexuel. Vous mettez très une dissonance cognitive. Genre, essayez de leur dire que. Tu crois qu'on peut faire des.
Je crois que. Bref, genre, connaissant ton niveau en Final Cut, je suis pas vraiment sûr.
De quoi
mettre, Ah, si, en fait, si, c'est pas hyper compliqué, je crois.
De faire quoi?
Tu dois pouvoir mettre en mono.
Ah,
les
bah
deux,
oui.
Tu sais, pour en mettre.
T'inquiète, pour que je trouverai quelqu'un qui sait le faire.
Parce que la dernière fois, t'as pas synchronisé le son c'est et la vidéo quand même.
Ouais, mais c'était chaud. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as aidé, mec.
Mais c'est vrai. Dans les 4 trucs que je sais faire sur Final Cut, il y a synchroniser.
C'est ce que, comme je faisais jusqu'à maintenant.
Tu superposais.
Et je superposais.
Et pour couper, tu.
Et je coupais chaque tout. Minute. Donc j'avais un podcast de 2 heures. Et en fait, je devais faire des cuts sur ma piste audio.
Tu faisais vraiment
de,
ça.
Je faisais. Bah, en vrai, je faisais.
Tu veux pas taper
je faisais 120 cuts de 1 minute. Et à chaque fois, je les calais.
Et attends, tu sais qu'il y a plein de mecs qui ont eu le même problème et qui sont allés. Quand on fait des tutos YouTube avec un son atroce. Hein.
J'avais pas le time, mec.
Ok.
C'est mon, okay, c'était mon
okay.
raisonnement.
Ok.
Et là, ça m'a vraiment fait chier parce que cette semaine, j'avais vraiment zéro temps. D'ailleurs, les gars, vous êtes plein que. Enfin, vous êtes plein. Non, je comprends. Le dernier podcast, c'est vrai que c'est un peu chiant quand je fais un podcast et je dis ouais, j'ai pas le temps 5 fois dans le podcast. Mais
bah, je vous parle, mais j'ai pas le
temps. Là en plus, j'ai mon coaching qui commence dans. Ça fait 1h06. Je crois que je dois te têche de la maison bientôt.
Ouais, ouais.
Ah bah, il est 16h48-49. J'ai demandé au groupe si je pouvais faire à 17h30. Je leur ai demandé un peu de temps supplémentaire et ils m'ont dit. Bah, il y a Hugo qui dit je verrai pas la fin, je pense, mais t'inquiète, je regarderai la fin avec la rediffusion. Donc, ok.
Hugo,
okay. Mathieu, il dit je regarderai la diffusion aussi car de toute façon, je suis pas dispo ce soir. Ah bah, parfait. Gaël, il me dit pas de soucis, mec. Bon, en fait, les autres, ils sont tous ok. Donc, parfait.
Donc, on a des petites prolongations.
Là, à partir de maintenant, il est 50. On peut se dire qu'on a jusqu'à 20, donc 30 minutes encore.
Allez, top.
Du coup, elle dit fais ta vidéo vite. Non, bref, crapper pris le village blanc, du coup, comme on disait.
Ah oui, c'était là-dessus. C'était problème. En gros sur les expressions identitaires, plutôt en gros ethniques et culturelles, qu'il y avait, qu'on pouvait entendre dans le rap. Parce que le rap étant dansant et entraînant, on n'a pas tendance à... Enfin, on écoute les paroles, mais on va pas forcément pousser l'analyse très loin, quoi. Et d'ailleurs, je la pousse pas très loin, hein. Je pose juste la phrase et je dis, bon, bah ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et il se trouve que on retrouve des patterns chez les Blancs qui font du rap, et qui sont très différents du reste des gens qui font du rap. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mise en avant, généralement, dans le rap de la part plutôt des Africains.
Des Latinos aussi, enfin dans le rap.
Ouais,
dans le rap
moi j'écoute pas tellement de rap latino.
Bah, moi, j'écoute
mais dans
beaucoup,
le rap français, tu vois, majoritairement, t'as des Blancs, des Africains, Noirs et Nord-Africains.
Ouais.
Tu vois, généralement. Et il se trouve, en fait, la vraie différence, elle se fait d'abord entre Européens et Africains, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'expressions de l'identité, et ça va même être très fort, en fait, les trucs sur la couleur de peau et la culture.
C'est un truc qui est très revendiqué. Très
ouais,
revendiqué
ouais, c'est
de
ça,
la part
ça. Ça fait... ouais, c'est ça. C'est une part importante de l'identité qu'ils expriment. Et de l'autre côté, les Blancs, là où on pourrait s'attendre à ce que bah, ce soit pareil, c'est l'inverse complet. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour nier un maximum... bah déjà l'ethnique tu oublies complètement, personne se revendique, il y en a un à 25G qui a fait un son qui s'appelait Babtou Pure Souche, je crois, un truc comme ça. C'était le... et puis il s'est fait attaquer par la Lycra si je me souviens bien, un truc comme ça. Donc, Babtou Pure Souche qui casse des bouches, c'était le c'était... mais tu sais, c'est pas non plus un mec hors circuit ou quoi, hein. C'était, il faisait des feats avec cette gecko et tout ça, c'était
ah ouais
cette ouais ouais.
Ah,
mais il est sympathique 25G, mais c'est juste le pendant, parce que par exemple Eurotrap de Vald, c'est cette idée-là. Eurotrap, c'est un autre exemple de... Il y avait la mode de l'afrotrap, et il a dit, ah mais tiens, si je faisais Eurotrap, tu prends le continent,
ouais.
Tu dis machin, et il a fait un autre son qui s'appelait Blanc. En gros, Vald, c'est celui un petit peu qui questionne,
ouais,
mais qui
ouais.
va pas non plus se revendiquer, il est pas là pour faire...
Mais Vald, tu es sûr, il... Vald, dis-nous si c'est le cas,
si tu es là.
J'ai vu un Reels de lui récemment, moi je pense que Vald, il regarde du Peterson.
C'est fort probable. Oui, je vois sur le relativisme. Où il démonte le relativisme et il dit que c'est.
Alors, je l'ai vu celle-là aussi, mais un où il parlait justement du rejet des hommes par les femmes. Genre, il y a deux jours, je crois, il a sorti un truc comme ça.
Ça, je crois qu'il a juste analysé son adolescence et il s'est rendu compte que c'était pas facile.
Ouais, mais il y a plein de trucs qui mettent un peu la puce à l'oreille, si tu veux, sur sa manière de questionner les choses.
Moi, je pense qu'il s'est perdu sur Internet, comme nous tous. Hein.
Ouais, mais il a dû aller son pet comme ça et il a regardé Maps of Mini.
Ouais, c'est bon, mec. Non, mais il y a des trucs sombres. Il y a des paroles de Vald qui ont été coupées et tout, des anciens albums. Ouais. Non, il a. Mais c'est mignon, tu sais. Il est allé un peu au bout des recherches internet et de ce que fait un ado sur internet qui se pose des questions. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu le seul qui se pose des questions et qui pose des questions, notamment avec ses morceaux. Pareil, il y a un moment très évocateur où il dit en gros. Dans un des l'avant-dernier album, où en gros. Il dit une phrase que... Putain, excuse-moi, j'ai pas la ref exacte. Okay. Mais en gros, il dit une phrase que les rappeurs disent tout le temps, mais une phrase un petit peu tribale. Et il redit cette phrase et il dit « Mais en fait, ça, c'est le plan des Le Pen. »
D'accord.
C'est ce que disent les Le Pen. Et en fait, il met la... Enfin, pas la contradiction, du coup, mais le miroir en disant ce que tu dis, bah, c'est exactement ce qui se dit dans le rap depuis toujours. C'est exactement ça.
Parce que
l'expression en soi, le fait de beaucoup exprimer son
l'identité
ethnique et culturelle, c'est du nationalisme.
Mais en fait, on revient à la question de la politique identitaire. À partir du moment où tu te considères non pas comme un individu, mais comme étant le membre d'un groupe, que ce soit un groupe sexuel, un groupe religieux, un groupe ethnique, un groupe, tu vois, genre ce genre de groupe. Bah, tu rentres dans la même logique que ce soit que tu sois un mec d'extrême droite, que ton groupe ce soit les mecs de ton pays ou que ce soit les mecs de ta couleur de peau, mais ou que ce soit à l'extrême gauche ou que tu sois genre que du coup ce soit le groupe des je sais pas, tu t'opposes à la bourgeoisie parce que toi t'es la classe du peuple, le prolétariat. Ou, en fait, t'es en train de jouer au même game. T'es en train de jouer un game qui est dangereux, du coup, qui a juste conduit à l'Allemagne nazie ou au goulag en Russie. C'est le game de je te regarde pas comme personne, mais je te regarde comme membre d'un autre groupe qui est mon ennemi, en fait.
Oui, mais je dirais qu'après ça c'est normal. C'est-à-dire qu'il doit y avoir il faut nuancer parce que l'extrême inverse de ça, ce serait une paix universelle et comment on pourrait appeler ça ? Ce serait arriver à une paix universelle et un internationalisme. Tu vois, en vrai, le but des Russes, de l'URSS,
ça c'est tellement de portes. Juste deux secondes, on va sur ce sujet avec plaisir.
Ouais.
Le pont que je voulais juste faire avec PLK, c'est que du coup, PLK, c'était un rappeur qui était blanc et que lui, et en si l'occurrence, il essayait d'éviter de revendiquer le fait qu'il était blanc, mais il revendiquait le fait qu'il était polonais.
C'est ça, c'est ça. Mais si on prend cet exemple, et en fait, j'ai pris cet exemple aussi parce que, ayant été dans le même collège, je connais exactement ce milieu-là, le milieu dans lequel il a été et ce qui l'a poussé à se revendiquer plus polonais, alors que je pense qu'il parle mieux français que polonais, tu vois. Enfin, on est né en France, on a grandi à Paris, tu vois, en tout cas pour son cas. Donc, c'est, tu vois, qu'est-ce qu'il fuit en Pologne ? Alors qu'il n'est pas polonais de base, c'est l'identité française. Et la question, c'est pourquoi fuir l'identité française alors que c'est le plus grand pays du monde. Pas forcément, mais c'est.
Après la Suisse.
De quel point de vue ? De quoi ?
Après la Suisse. Tu pensais qu'il y avait 3 zones sur ce bras, j'arrive à faire ah ouais je... Il crache sur la table, mais la blague qui va trop loin, ma table est dégueulasse. Mais ok,
non, pourquoi fuir cette identité alors que t'es né ici, ce pays t'a tout donné, tout ça, tu vois, même si au niveau de l'ethnique, c'est pas forcément exactement ça. Et pourquoi tu vas jusqu'à le mettre dans ton pseudo ? Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une mise en avant de l'identité qui est très très forte. Que ton nom, ce soit... c'est comme si je m'appelais français.
Ouais.
Tu vois, c'est que ton nom soit...
C'est comme si tu t'appelais... Voilà, c'est bon.
Ouais, t'as raison, c'est ça.
J'ai pensé que c'était pertinent de...
Ouais, non, c'est l'équivalent. c'est l'équivalent pour français. mais du coup... Et en fait, ouais, on retrouve ça. On retrouve ça à peu près chez tout le monde. C'est-à-dire que Nekfeu, c'est pareil. C'est grandir vers Nice, puis à Paris. C'est quand même très très français, excusez-moi. Et... il va revendiquer les origines grecques et enfin tout ce qui peut le dissocier de la France.
Et c'est pas pour rien.
Alors Orelsan pour moi assume.
Bah Orelsan il a le côté, c'est vrai il assume, mais il a le côté il y a San dans son prénom qui.
Oui, il doit quand même se barrer, c'est-à-dire que lui assume complètement le poids d'être français. Et juste il dit je suis une ordure parce que je suis français, mais je vais au Japon pour un petit peu.
Pour être un peu plus stylé mec.
Ouais. Pour être un peu... Okay. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai qu'il y a cette identité là. Après ça c'est une grosse influence culturelle que je comprends plus que la Pologne. Par exemple en France. L'influence culturelle de la Pologne est pas non plus énorme, en gros il y a juste le prolétariat, tu vois, comme pour mes ancêtres à moi, mm-hmm. qui est venu de Pologne et travaille en France, ouais. Mais à part ça, tu vois, le Japon nous a complètement influencé, l'Amérique nous a complètement influencé, donc je comprends qu'on prenne ce bout d'identité là. Lui assume en tout cas dire voilà, moi je suis français, très influencé par le Japon. Ouais. Mais par contre, oui, il y a un petit peu quand même. Le seul petit problème que j'ai avec le Japon, et alors Nekfeu fait un petit peu pareil, c'est que ils vont proposer un modèle de société à la France. Un modèle que je dirais plutôt de gauche, qui serait immigrationniste, tout ça, et qui est aux antipodes du de ce qu'ils vont chercher au Japon.
Ouais. Alors,
ça c'est quand même. Enfin, je veux dire, pourquoi on. Comment dire ? Moi je suis jamais allé au Japon.
C'est très raciste un japonais.
Oui, ça m'a tout l'air. Non,
pas tous, c'est pas là-bas que tu vas réussir à faire passer des je sais pas des trucs d'identité de genre ou d'expression de genre ou que tu.
Alors
vas,
ça je crois que si. Vont... Si pour le coup niveau ça pousse, en tout cas pas autant qu'en Europe.
D'accord.
Mais ils ont cette pas propagande, ce n'est pas le mot, cette influence.
D'accord. Ils ont cette ouverture vis-à-vis de ces idées.
Ils sont ouverts là-dessus, mais c'est vrai que oui, leur identité de peuple est très importante et très imperméable. Très imperméable, et ils ont un rapport à la tradition qui est très important, et ce qui fait que...
Ils ont aussi un rapport à essayer d'imposer leur culture à d'autres cultures, enfin une politique un peu impérialiste. Ils ont essayé de faire un tas de percées sur la Chine pour essayer d'envahir quelque part les autres peuples et d'imposer leur culture.
Je crois que la Chine le fait un peu.
En fait, sur la fin.
Mais après, en même temps, c'est des bosseurs. C'est-à-dire que les mecs nous ont fourni du dessin animé, tu vois, des...
Ouais, ils ont fait des mangas.
Excuse-moi. Non, mais tu vois, c'est pour ça que je disais que c'est quand même une toute petite île ultra loin qui a une influence en France. C'est impressionnant, hein, la culture. Là, je dis manga parce que moi, je suis un peu extérieur. Je connais pas trop
tout ça. T'as vu le clip que j'ai fait avec Flo? D'ailleurs, Flo,
il est atroce.
Tu veux dire salut à Flo?
Flo, je ne te salue pas parce que tu es raciste. Voilà, Flo. Il a dit quoi? Je ne peux pas.
En gros, vous avez une blague. Si tu veux, à un moment donné, je faisais une blague sur les Chinois. Enfin, je sais plus. Et lui, il fait. Après, je dis, j'aime beaucoup la Chine, les murailles, tout ça. Et lui, il explose de rire. Il fait, ouais, les sushis et tout. Et après, moi, je rigole. Moi, je dis, ouais. Lui, il dit, ouais, les samouraïs. Et moi, je dis, ouais, les sushis. Et après, il fait, mais les sushis, c'est pas du tout chinois. Et moi, j'arrête. Il me dit, je fais, mais frère, les samouraïs non plus, c'était pas chinois. Il fait, comment ça? Je fais, frère,
et là, je dis. C'est marrant parce que c'est une erreur en vrai dans certains milieux qui pourrait mal passer.
Ah ouais.
Là, on en rigole, mais ça pourrait mal passer alors que.
C'est
vraiment pas grave.
C'est de l'ignorance.
C'est rien. Enfin,
c'est
dire
de la putain de
nuance. Mais
mec.
Ils sont loin, les mecs.
Ouais, c'est la
non,
même
mais
chose.
Excuse-moi. Ils sont. Non, mais. Non, mais c'est vrai qu'ils sont. C'est pas contre eux, mais c'est normal. Tu vois, par exemple, qu'un Américain confonde la Suisse et la France.
Ça va. Un Péruvien, un Bolivien, ça mange des cochons.
Non, mais tu vois, l'inverse.
Après, en plus, on peut faire des blagues comme ça parce que, mec, excuse-moi, je tiens à le dire depuis le début parce que je fais des blagues comme ça, mais je suis pas blanc.
Ah.
Je suis moitié péruvien.
Non-binaire.
Et je m'identifie comme femme pendant tout le podcast.
Ouais.
Donc si vous retournez contre moi, en fait, vous êtes misogyne et raciste. Voilà, je suis une femme de
c'est
couleur.
C'est bien joué.
Vous allez faire quoi?
Femme de couleur, il retourne ses cartes.
Par contre, juste, voilà, alors, attends. PLK, ouais. Toi, tu parlais aussi du truc qui se passait avec le Japon. Et tu donnais aussi un autre exemple dans une de tes vidéos, qui était l'exemple avec Tovaric.
Oui, alors Tovaric, ça va être à peu près la même chose que PLK, mais avec de la testo. C'est-à-dire que Tovaric a un très bon physique, mais...
Comment un peu?
De quoi?
Pardon. Vas-y. Je dis comment un peu mais...
T'as un très bon physique.
Mais en fait, je suis pas congestionné, en fait, mais tu vois, après...
Mec. Et puis t'es pas chargé, surtout. C'est l'essentielle différence qu'il y a entre vous deux.
Ça me touche tellement,
mais ouais, alors, c'est vrai que ça va être ça avec plus de testo, donc... il faut savoir que tous ces mecs, j'écoute ce qu'ils font... je trouve pas ça si mal. Et c'est une critique dans le fond du discours. C'est pas du tout, je suis pas du tout un amateur de rap qui va critiquer sur la forme, la technique, genre de choses. C'est vraiment juste ce qu'ils disent, ce qu'ils nous transmettent comme message et ce qu'on va écouter en boucle. Parce que c'est pour ça que je donne une importance au discours du rap. C'est parce que moi j'en ai énormément écouté. Il y avait des morceaux que j'écoutais peut-être, ça devait se compter à des dizaines, des centaines.
Ah, moi je pense que. Mais moi, mec, tu sais que quand je m'entraîne, j'écoute du Cobaladé.
C'est frère, très teubé. C'est très teubé.
Horriblement teubé. Ouais. Et en fait, ce
moi,
qui
je
est...
préfère Ziak pour
en fait, j'adore. J'écoute Ziak, j'écoute beaucoup Frisk du Orléans. ZKR. Frisk Orléans aussi. Ouais. ZKR, c'est très très lourd. D'accord. Et genre, au niveau des textes, ça suit. Mais Cobaladé, c'est tellement teubé. Mais le rythme est tellement bon que du coup, c'est trop bon pour s'entraîner. Il y a vraiment de la trappe trop lourde. Et du coup, j'écoute ça. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que les phrases, parce qu'à force d'écouter, je retiens. Et les phrases que je retiens, mieux évidemment, c'est les phrases les plus horribles, tu vois, les plus.
Et elles tournent dans ta tête.
Ouais, du coup,
tu les as facilement. Ouais, non, mais c'est ça qui est atroce. Ouais. En vrai, c'est le problème avec le rap, c'est que c'est des incantations. C'est que c'est des. En vrai, si on a autant de beaux chants militaires, tu vois, si on a autant de beaux chants militaires, c'est qu'il fallait mettre en musique une motivation pour aller faire des trucs extrêmement durs comme la guerre par exemple. Et donc là, c'est ce qu'ils nous font dans nos vies de branleurs où on n'a plus à faire la guerre là. C'est des incantations à faire d'autres choses. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait la critique sur Ziak par exemple, c'est que.
J'ai pas regardé cette vidéo.
De quoi ?
J'ai pas regardé la vidéo.
Ouais. Bah, en gros, d'un côté, il est extrêmement doué, c'est terrible, et c'est sûrement l'artiste. Comment dire ? Sur toutes ces histoires de rythme et de t'envoyer à la guerre, tu vois la métaphore par rapport à ça, c'est le pire. C'est pire parce que c'est extrêmement bon et c'est.
C'est plus malsain. C'est tes enfants, ils écoutent ça, ils vont à l'État islamique.
C'est vraiment la promotion H24, c'est des histoires de coups de couteau et très très descriptif.
Tu te visualises en train
C'est ça, que des métaphores parce qu'en fait il écrit bien, parce qu'en fait au bout c'est pas un teubé, il fait le teubé pour percer dans le rap, mais c'est pas du tout un teubé, c'est extrêmement. T'as dû le remarquer avec les clips, tout ça.
Je connais pas trop Ziak, Florentin, du coup, qui est un grand amateur de rap, c'est pour ça qu'il aime beaucoup tes vidéos.
Ah oui.
C'est lui qui m'a fait écouter du Ziak. C'est lui aussi qui m'a fait écouter du Freeze.
Ouais.
C'est lui aussi qui m'a fait écouter.
Ça aussi, ça m'a
marqué.
Ouais.
Et comment il s'appelle l'autre SDM. Putain, je vais te faire écouter après, mec.
Okay.
Mais du coup, vas-y, c'est très du coup imagé. Du coup, tu peux vraiment te voir.
Et c'est une incantation très pire. C'est vraiment la promotion du crime à fond. Et c'est-à-dire qu'en France, on a déjà pas mal de coups de couteau. On ne manque pas de coups de couteau. Clairement, on est servi là-dessus. Je sais pas exactement quels sont les chiffres, mais c'est beaucoup, beaucoup d'agressions au couteau.
Mec, je me suis posé une question. Tu me dis ce que t'en penses. Je connais pas les statistiques exactes, tu vois, mais j'aurais tendance à dire que, tu vois, genre se faire défoncer par trois types quand tu sortais de chez toi, ça arrivait plus il y a 200 ans dans ton village qu'aujourd'hui, tu vois. Et je pense que, alors maintenant, je pense que de nouveau, je dis, je connais pas les chiffres parce qu'il y a une question aussi de culture, et peut-être on pourra s'en servir après pour faire le pont sur ce sujet que j'ai envie de traiter avec toi, qui est le sujet de l'identité, du rattachement au groupe identitaire, que ce soit un groupe ethnique, racial, religieux, et ainsi de suite. Mais il y a un côté où quand tu considères que l'autre personne, elle fait pas partie de ton groupe, elle fait partie d'un autre groupe, bah quelque part, c'est plus facile de t'attaquer à elle, ou de la voler, ou de la frapper, ou genre de l'agresser. Et une histoire de ouf, mec, qui est arrivée l'autre fois, genre je racontais, je m'étais fait voler mon téléphone ici. D'ailleurs, fais gaffe à Barcelone, tu vas te faire voler ton téléphone.
C'est vrai?
Ouais, fais attention.
Voler comment? Ils t'ont arraché.
Pousse de pas à côté de toi. Bon, on m'a arraché des chaînes.
Ouais. Oh, c'est insupportable.
Fais gaffe. Bref, et en gros, genre, je racontais cette histoire à un mec. Je me suis fait voler mon tel à 9h du matin. Et je vais au cowork juste après. Je raconte ça à un mec qui est au cowork. Et puis le mec, il me fait: ah putain, mais en fait, c'est marrant parce que avant-hier, j'étais avec ma copine. On était dans le Raval, donc c'est le quartier qui est à gauche de la Rambla. C'est un quartier qui est un peu pas très très fréquentable, tu vois. C'est pas le plus beau, de toute façon, vas-y pas, c'est pas ouf.
Moi, je vois, c'est le centre, mais c'est le Barbès de
d'ici. Voilà, exact. Ouais. Et en gros, il racontait qu'ils étaient allés manger avec elle, et au moment où ils partent, ils se rendent compte qu'ils ont plus leur téléphone, et du coup, ils ont plus le téléphone de la meuf. La meuf, elle revient sur place, comme ça, elle voit qu'il n'y a pas le téléphone, et puis du coup, elle rentre dans la première épicerie arabe qui était juste là, et elle commence à discuter avec elle dit au mec qui était blanc, elle lui dit: toi, reste dehors. Donc elle rentre, elle commence à parler avec le gars, et au bout de 5 minutes, en fait, t'avais genre 15-20 types qui étaient genre tous en train de hurler dans tous les sens, qui étaient dans l'épicerie. Le mec, il était dehors, il était à genre 10 mètres de l'épicerie, dehors, tu vois, il voit tout ce remue-ménage, il voit tout ce boucan, tu vois. Et en fait, il voit juste plein de gars, et tu vois, genre 10 minutes plus tard, la meuf, elle ressort avec son téléphone. Il lui demande, il fait, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, c'est quoi le truc? Elle a expliqué qu'elle lui a raconté, elle a raconté au gérant de l'épicerie ce qui s'était passé. Et le mec a commencé à appeler ses voisins et tout, nanana, et puis ils ont commencé à parler. Et en fait, ce qu'il disait, c'est quoi ce bordel, les mecs, on vole pas les nôtres. Tu vois? Et en fait, du
coup. Parce qu'elle était maghrébine.
Ouais, elle était. Ah, j'aurais peut-être dû commencer par là.
D'accord, c'est ça.
Elle était maghrébine. Et du coup, il y a cette idée-là que quand toi, tu t'identifies ou tu trouves un lien avec l'autre personne, ben. Ou plutôt, ça va plutôt dans l'autre sens, quand tu ne trouves pas de lien avec l'autre personne, quelque part, bah, ça va justifier les méfaits que tu vas pouvoir commettre. Enfin, c'est beaucoup plus simple, parce que tu n'identifies pas à lui. Tu vois pas que c'est ton frère, quelque part.
C'est pas ton groupe, ouais.
Bref, du coup, juste pour faire...
En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis sur est-ce que la société s'est pacifiée ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, t'avais plus de chances de te faire...
À mon avis, elle s'est pacifiée, et du coup, le point que je voulais faire, c'est juste si on peut... Je suis désolé, ça fait beaucoup, mais le point intéressant que je voulais faire... intéressant, ouais, parce que c'est tout intéressant ce qu'on dit, mec. C'est est-ce que en réalité c'est pas parce que la société s'est pacifiée, on a une exposition de la violence qui est plus grande, tu vois, vis-à-vis des médias, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, tout ça, donc on voit plus facilement la violence.
Ouais.
En réalité, c'est plus pacifique parce que aujourd'hui, tu bouges tes mains pendant une conversation, t'as certaines personnes qui vont dire que c'est une micro-agression, si tu veux. Aujourd'hui,
dans certains milieux.
Aujourd'hui, tu joues à la bagarre, si tu veux. Mais je pense que tu vois, dans ces mêmes milieux, tu vois, genre les mêmes milieux qu'il y a, genre aujourd'hui où tu te dis ouais, les banlieues et tout, là, tu regardes il y a 20 ans, il y a des embrouilles à coups de cutter, tu vois, ça existait déjà, tu vois.
Même il y a plus de 20 ans, si tu prends Paris, par exemple, c'était une favela.
Mais frère,
c'était
un enfer. Voilà, du coup, mon point, c'est genre, est-ce que parce que la violence s'exprime moins via des agressions physiques et via genre des coups de cutter ou des embrouilles en bas de
baseball,
qu'en fait, alors qu'on y est plus sensible d'une part, mais aussi que la violence, on l'a tous au fond de nous, comme d'individus, si tu veux. Et peut-être qu'on a besoin de l'exprimer d'une manière autre que via l'agression physique, donc plus de violence exprimée via le rap, via la musique, et aussi pour ça que t'as des mecs qui sont de quartier tranquille, tu vois, des bourgeois qui vont écouter du cobaladé et juste s'enflammer sur des trucs qu'ils connaissent pas du tout, tu vois, parce qu'au fond, cette violence, ils l'ont au fond d'eux. La même raison pour laquelle on mate des films d'horreur, ou pour laquelle genre des meufs elles vont être passionnées par des histoires de serial killer. Ça parle à une partie profonde de nous, le mal qui est en nous, ça lui parle quelque part
à ça.
Ouais, on a ce système latent quelque part pour la violence qui est au fond de nous, et c'est pour ça
c'est intéressant. En tout cas, je pense que c'est pas la meilleure manière de la canaliser. Je pense que
faudrait écrire, les gars, écrivez un journal intime
de quoi. Non, ah non, moi je pense plus au sport de combat, ce genre de choses. Enfin, en tout cas pour la canaliser, c'est tu prends un gamin qui est violent ou qui a besoin d'exprimer ce genre de truc, tu l'emmènes à un cours où il se fait bien latter et il apprend en même temps la violence et la discipline qui va avec. Tu vois le
c'est plus cadré en fait.
De quoi?
C'est plus cadré.
Il se rend compte de ce que c'est vraiment que donner des coups et d'en reprendre. Et ça va clairement le faire monter en niveau de conscience. Et ça va ça va complètement canaliser, canaliser cette violence, et il va être bien plus poli après. En tout cas, je pense ça. Et après,
tu fais de la boxe, toi, non?
De quoi?
Tu fais de la boxe, toi, non?
J'en ai fait pendant un moment, et c'était bien, justement, j'ai eu ça. Les cours, c'est très chiant, parce qu'il y a une heure de cardio, c'est insupportable. Donc après, je l'ai fait en parc avec des copains, c'est juste, tu prends ça. Mais non, par contre, depuis peu, je fais du grappling, c'est trop bien.
Ouais.
Depuis vraiment peu, hein, je suis amateur, mais ça me rappelle les bagarres quand on était petit.
Ouais.
Tu sais, naturellement, en fait, on se mettait pas des patates.
Bah oui, on faisait de la lutte, quoi. Mec.
Mais c'est ça, tu sais, on se mettait par terre et tout, et en fait, c'était trop bien, ces bagarres-là.
Ouais,
et après, t'as pas un mal de tête parce que tu t'es pris des petites patates. Donc ouais, la lutte, j'aime vraiment bien ça, et c'est vrai que ça rend poli ce qui se passe.
En fait, je pense que ça rend poli. Ouais. Je me demande si ça rend pas poli, justement, parce que c'est encadré par une figure d'autorité qui va être le chef du
village. Il y a un autre truc, c'est que t'as un rapport direct à la violence et tu te rends compte que c'est bien de l'éviter. En même temps, on est bien dedans, dans un certain état d'esprit, t'arrives, soit à t'énerver, soit à te chauffer, au moins pour le cours.
Tu comprends jusqu'où ça peut aller, en fait.
Mais c'est ça. Et ça te rend... Et vraiment, moi, je me souviens d'ambiance dans les vestiaires après la boxe. C'était des gentlemen.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on était vraiment extrêmement éduqués. Alors que t'avais des cassos absolus dans le vestiaire, tu vois, dans le cours. J'étais à Porte de Clignancourt, c'est la partie nord de Paris.
J'ai entendu ça dans des musiques de rap.
Oui, bon, voilà, c'est un des quartiers assez mal fréquentés.
Dans des musiques de rap.
Les Suisses, c'est ça qui parle en vrai.
Ouais, ils étaient bien éduqués. Moi, il y a un podcast de Joe Rogan où il invite un mec qui est un combattant de MMA. Bref, il invite un combattant de MMA sur le truc et il commence à discuter, et le mec raconte à un moment donné, il était dans l'avion, et il a reculé son siège, tu vois, chose que tu peux faire dans l'avion parce que c'est pour ça que les sièges existent, tu vois. Mmh. Et le mec qui était derrière lui a commencé à défoncer le siège, il a commencé à mettre des coups dans le siège en mode trop vénère, si tu veux.
Ouais.
Et le commandant MMA, tu vois, il s'est levé, le mec a commencé à s'embrouiller comme ça. Et le gars lui a dit, mais mec, est-ce que t'es conscient que, genre, t'es déjà battu, mec? Est-ce que tu te rends compte, genre, où est-ce que ça peut aller?
S'il fait ça, c'est que non, en général.
Exactement. Il lui dit,
parce
en fait.
Que sinon, tu te comporterais correctement.
Exactement. Il lui dit, mec, enfin, en gros, il lui a expliqué que c'était un combattant de MMA, il lui a dit, mec, en fait, je peux te tuer, tu vois. Sur t'agresses pas un mec comme ça sans raison, tu vois. Et quelque part, c'est marrant.
C'est bien
parce
qu'il lui a dit avant de le faire.
Ah, mais il l'a pas fait, il l'a même pas agressé, tu vois. Ouais. Le mec s'est calmé, mais il lui a juste expliqué, mec, fais pas ça, en fait. Parce que tu vas tomber un jour sur un mec beaucoup plus chaud, enfin, qui contrôle moins quelque part son agressivité que moi. Mmh. Et je trouvais ça intéressant, mec.
Non, mais c'est sûr, c'est vrai que ça, en tout cas pour moi, c'est la meilleure manière de le canaliser.
C'est vrai, peut-être. Et
effectivement, oui, tu peux te retrouver dans. Quoi qu'il en soit, je pense qu'après une heure de sport de combat, peu importe lequel, tu te sens bien mieux qu'après une heure de rap. Tu vois, si tu. Parce que t'en as déjà fait, du coup, tu m'as dit du jujitsu.
Ouais.
Ouais. Tu vois comment tu te sens après.
Ouais.
C'est ça n'a rien à voir avec après avoir écouté du rap. Je suis juste teubé, j'ai moins de vocabulaire, je suis beaucoup plus impulsif.
Bon, une heure d'écriture quelque part. Vas-y, disons une heure d'écriture. Prenons en fait le bon du rap. Tu vois, ok. Prenons une bonne session d'écriture de rap. Imagine ou de la même manière que tu vas faire une bonne session
de rap. Tu veux dire de création de.
Ouais, de création de texte.
D'accord. Parce que moi, je parlais d'écouter.
Ah, tu parlais des mecs qui écoutaient.
Oui.
Moi, je pensais aux mecs qui écrivent le rap pour canaliser leur violence là-dedans. Mais oui, mais c'est vrai qu'en réalité, c'est aussi ceux qui vont écouter le rap pour se défouler, quelque part.
Mais effectivement, j'imagine que ça te rend moins teubé d'écrire même des paroles teubées, vu que t'es obligé de les structurer un minimum et de les faire rentrer dans une harmonie.
Ouais.
Enfin, harmonie, le mot est grand, mais tu vois, vu que t'es...
C'est une symphonie, mec.
De quoi?
Une symphonie.
Le mec qui égalise tout. Oh, c'est les compositeurs d'aujourd'hui, oui.
Ah, mais c'est comme ça, mec.
Non, mais ouais, j'imagine quand même que c'est un meilleur exercice d'écrire plutôt que d'en écouter. Parce que d'en écouter, en plus t'es vraiment passif, ouais. T'écoutes que ça.
C'est pas bien d'être passif.
De quoi ?
C'est mal d'être passif.
Bah, ça dépend dans quel
contexte.
Ouais, c'est ça, dans quel contexte. Justement, tu vois. Là... Ah oui, ouais. Non, mais tu vois. Non, mais on parlait de la boxe. À la boxe, quelque part, t'es passif. T'es passif, t'es soumis, tu la fermes, il y a le prof qui dit un truc, tu vois, et il n'y a pas d'autre alpha dans la pièce que le prof. Ouais. Après, tu sors, tu fais ce que tu veux, tu bombes le torse, mais là, tu la fermes, parce que sinon, tu te prends des petits, tu vois, des claques humiliantes.
J'ai fait un petit peu de boxe, j'ai fait une semaine.
C'est pas mal.
Non, en vrai, j'ai fait un peu plus, parce que j'ai fait des sparring aussi, avec, on se chauffait avec un pote, mais je me suis fait mal.
Ah oui, d'accord. Plus librement, du coup, en dehors des cours, tout ça.
Mais lui, il était chaud. Hein. Lui, c'est un turc, il était vénère. Il avançait vers moi, ça mettait des coups de pression, mec. Quand t'as un mec qui s'avance vers toi en sparring comme ça, et il était massif, mec, ça...
Ouais.
J'ai une question, tu mesures et tu pèses combien, mec? Parce que t'es grand, mec, t'es beaucoup plus grand que ce que je pensais.
Ah, c'est vrai?
Frère, tu mesures quoi, 1m90?
93, je crois.
Ah.
Je crois qu'on est sur 93, et pour le poids, ça fait longtemps que je ne suis pas posé, je dirais 85 kilos.
Ok, ouais, t'as un bon morceau.
Pas non plus... Hein?
Ça
fait plaisir.
Ouais, je sais, mec.
Je fais ce que je peux. Toi, t'as vu où ta prise de masse?
Tu fais des street workouts, mec?
Il semblerait. Ouais. Il semblerait que je fasse du. T'appelles ça 7 and reps? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte depuis le début de ma vie, je fais du 7 and reps.
Mec, il va faire du 7 and reps.
C'est ça,
mec.
On fait
du 7 and reps, mec.
Ouais.
Désolé, laisse-moi voir. On enregistre toujours. On est à 1h32 et il est 17h15. Dans 5 minutes, il faut qu'on arrête.
Bien sûr.
Est-ce que
ça appelle un épisode 2?
Frère, tu reviens à Barcelone, on aura 100% de trucs à dire en fait sur un deuxième épisode.
Ouais,
où je reviens à Nice ou autre. Et on peut tester, vu que là t'es là ces prochains jours et que le mec à qui je devais prêter ma caméra est malade, on peut tester pour en enregistrer un autre. Et du coup, ça ferait deux épisodes à la suite. Donc on peut voir pour faire ça peut-être après-demain.
Moi ça me va très bien. Moi je te dis, je suis là jusqu'à samedi après-midi.
Et on est. Mercredi, donc on a jeudi, vendredi.
C'est ça.
Et
surtout jeudi, vendredi en vrai. Parce que samedi, je pense que.
Ok. Ok, mec, en tout cas, Simon,
il y a beaucoup de portes ouvertes.
Ouais, on a ouvert beaucoup de portes, mec. Il fait froid, il fait un petit peu froid d'ailleurs. Mais c'était vraiment stylé, c'était trop cool.
C'était
on a pas pu parler du coup de. Parce que moi, c'est un sujet qu'on a un peu laissé la porte ouverte, l'histoire d'individualisme versus communautarisme ou. Politique identitaire, si tu veux, de voir
ça,
les gens comme des groupes.
Ouais. Parce que ça aurait découlé, je pense, sur la confiance.
Donc on peut, limite, si on a l'occasion de faire un épisode.
Ouais.
de parler un peu de ça. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et je pense
ouais,
que
ouais, carrément, moi aussi.
C'est trop bien en tout cas de discuter avec toi, mec. J'ai grave kiffé, mec.
C'est la réciproque est vraie.
Putain, mec, moi j'étais sûr en plus qu'on parlerait bien et
ouais.
C'est ouf parce que je présentais le truc alors qu'on s'était jamais parlé, tu vois.
Ouais, pareil. Mais c'est une question de. Bah, déjà, la vidéo, ça ment pas trop. Là, en vidéo, on peut voir, on peut avoir un aperçu, et il y a des gens qui répondent plus ou moins. Mmh. Tu vois ce que je veux dire par répondre ? C'est pas forcément répondre verbalement, mais ça peut être.
Qui percute.
C'est ça.
Et qui enchaîne par-dessus.
Ouais, mais même sans. C'est un peu métaphysique ce dont je parle. Genre, c'est même sans, sans forcément montrer des signes de réponse, tu sens la tension et le fait que il n'est pas concentré sur autre chose ou sur lui-même.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Il y a, enfin,
tu m'as senti engagé, mec.
Tu vois, engagé.
Il y a un engagement. Bah,
non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de mecs comme ça où c'est très les discussions sont très désagréables parce que t'as l'impression que ton énergie se barre. Là, je parle vraiment comme un gourou.
C'est
mais...
énergies, mec.
Non, mais
frère, on peut parler des énergies dans l'épisode suivant. Parce que ça aussi, c'est un sujet très intéressant,
on
je pense.
En parler. Parce qu'il y a beaucoup. Mais en tout cas, ouais, il y a des gens qui répondent, et après oui, ça se sent aussi sur ce qui se dit clairement, c'est-à-dire quand tu sens que le mec est pas à côté de la plaque et pertinent, c'est-à-dire qu'il t'a écouté, et c'est quand même les discussions qu'on préfère.
Ouais.
C'est quand même pas très agréable. Et pour ça, ouais, il faut être concentré sur l'extérieur.
Bah, je t'ai concentré sur toi, mec, je te regardais dans les yeux.
No homo.
No homo.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.